Europe 1 Matin Week-end.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Week-end pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion. Pour l'info, vous le savez hein, désormais, Europe 1 Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures, des chroniques et deux invités. À 6h10, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler de jardinage, de semer? Qu'est-ce qu'on va choisir pour éviter des plantes trop gourmandes en eau? Vous connaissez peut-être la chaîne YouTube Le Potager d'Olivier. Il viendra nous donner conseils et astuces. Europe 1, partenaire du CIDACTION. À cette occasion, je reçois à 7h10 Florence Thune, directrice générale. On verra que les idées reçues et les fausses informations perdurent chez les jeunes, mais que l'espoir d'une vie future sans sida fait également son chemin. Vos rendez-vous habituels, Vanessa Zah nous emmène à hier fêter le centenaire de la Villa à Noailles et Olivier Pouls nous cuisine des artichauts barigoules. Mathieu Alterman sera là, lui aussi, ce matin, les slows les plus iconiques au cinéma. Et puis juste avant le journal de 8h, Christophe Bordet nous parlera de ses copropriétés obligées d'installer des ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous accueillir sur Europe 1. Il est 6h.
Europe 1 Matin Week-end, Lénaïque Monnier.
Et la première édition vous est présentée par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le spectre des violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Des milliers de manifestants anti-bassines sont de retour 6 mois après des heurts avec la police.
Dans ce journal également, le roi d'Angleterre avait choisi la France comme première visite d'État. C'est raté, le voyage de Charles III annulé à cause des contestations contre la réforme des retraites.
Et puis en football, capitaine Mbappé commence par un carton. Victoire 4-0 de l'équipe de France contre les Pays-Bas hier soir.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Et puis je vous le disais, on descend dans le Var avec Vanessa Zah. Tout ça, ce sera juste après la première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien le Var sous un soleil voilé, mais encore quelques averses sur le nord. Un ciel qui est variable ailleurs en attendant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvieuse près de l'océan ce soir.
Merci Valérie, météo complète après le journal. Et la petite commune de Sainte-Soline est donc face à un week-end sous tension.
Le risque de violence est fort en marge des manifestations contre une méga bassine. C'est la prévision en tout cas du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Et la réponse des autorités est massive. Plus de 3000 policiers et gendarmes mobilisés près du site de cette rétention d'eau artificielle. Les anti-bassines sont déjà nombreux. Explication Charles Guyard pour Europe 1.
La première des choses qu'on redoute, c'est que la manifestation puisse pas avoir lieu.
Le porte-parole national de la Confédération paysanne, Nicolas Giraud, a toutes les raisons de s'inquiéter sur la tenue effective de ce rassemblement anti-bassine programmé de longue date ce week-end dans les Deux-Sèvres. Hier midi, la préfète du département, Emmanuelle Dubé, l'a rappelé, cette manifestation n'est pas autorisée.
Aux personnes qui souhaitent se rendre sur ce rassemblement interdit, ils se mettent dans une situation qui est une infraction pénale et donc que je leur déconseille de venir dans ce rassemblement.
Malgré cet avertissement, plusieurs centaines de manifestants ont déjà convergé vers un campement établi à quelques kilomètres de Sainte-Soline sur un terrain privé. Nicolas Giraud, lui, s'insurge contre cette interdiction et de la violence qui pourrait en découler.
Interdire toute manifestation, forcément qu'on souffle sur les braises. C'est ce que fait la préfète, c'est ce que fait Gérald Darmanin. À un moment donné, les responsables de ce qui va se passer, c'est l'État qui empêche les gens de se rassembler pacifiquement.
Et entre 7000 et 10000 manifestants sont attendus ce week-end et côté force de l'ordre, 3200 gendarmes et policiers sont déployés sur terre et dans les airs.
Le correspondant d'Europe 1, Charles Guyard, le maintien de l'ordre au cœur de l'actualité avec la mobilisation contre la réforme des retraites. L'IGPN, la police des polices, saisie après la publication d'un enregistrement où des agents insultent et menacent des manifestants.
Et Victor, conséquence de cette situation tendue, le roi d'Angleterre, Charles III, ne verra pas la France tout de suite.
Sa visite d'État à Paris et à Versailles, la première depuis son sacre, a été reportée. Décision d'Emmanuel Macron, elle devait débuter dimanche. Mais Jacques Serret, la venue du souverain britannique s'était transformée en casse-tête sécuritaire.
Oui, de la descente des Champs-Élysées au dîner au château de Versailles, en passant par l'aller-retour en train entre Paris et Bordeaux, ces étapes inquiétaient particulièrement les services de sécurité. Plusieurs remontées des renseignements indiquaient la volonté d'individus de l'extrême gauche de troubler la visite royale. Et au-delà de la question de la sécurité de Charles III et de la reine consort, qui a bien sûr été prise en compte, il a également été jugé que maintenir cette venue était dangereux en termes d'image pour la France en cas d'incident à cette occasion. Et Emmanuel Macron s'est donc entretenu par téléphone avec le roi. Cette décision a été prise ensemble, insiste-t-on, du côté de l'Élysée. Les deux hommes ont convenu de reporter la visite. Aucune date n'est fixée, mais ce devrait être au début de l'été, indique la présidence. À défaut de la France, Charles III ira donc pour son premier déplacement à l'étranger en Allemagne, mercredi, car sa visite à Berlin est-elle maintenue. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, peu cache leur déception d'en arriver là. Un sentiment de gâchis, résume un conseiller.
Jacques Serret pour Europe 1. À l'étranger, l'eau doit être au centre de l'agenda politique mondial. L'alerte du secrétaire général des Nations Unies à l'issue d'une conférence inédite hier. En 2020, 2 milliards de personnes étaient toujours privées d'une eau potable. 3 milliards et demi n'avaient pas accès à des services d'assainissement gérés de façon sûre.
L'assainissement de l'eau, c'est justement la mission que s'est donnée une entreprise bretonne.
Parce qu'en France, entre 4 et 5 millions de foyers ne sont pas raccordés aux égouts, en particulier dans les zones rurales. La solution d'Aquatiris, utiliser des roseaux naturellement filtrants. Reportage Europe 1 chez un particulier dans le Perche, Delphine Schiltz.
Des gravillons, du sable et des roseaux sur son terrain, Jean-Luc a fait installer ce jardin d'apparence rustique. Il recueille et traite les eaux usées de sa maison, une solution qui s'adresse à tous ceux qui ne sont pas raccordés.
Quand vous ne pouvez pas avoir de tout à l'égout et tout ça, et ce système-là, il est parfait. Le tout à l'égout, il se retrouve à des kilomètres ici. On peut traverser tous les champs, quoi. Et en plus, c'est écologique.
Ce sont les micro-organismes et les racines qui digèrent les saletés. Contrairement à la fosse septique, pas de rejet de CO2 ou de méthane. Et c'est efficace, 95 à 98% d'épuration grâce aux plantes.
Là, on voit que l'eau, elle a une couleur plutôt claire.
Là, elle est claire, exactement.
Et donc, ça repart dans les nappes.
Et après, ça repart.
Edwige Ledouarin, fondatrice d'Aquatiris, s'est inspirée de stations communales qui utilisent ce système.
Il fait le travail de l'assainissement, ça c'est l'utile. Et puis en plus, il embellit le jardin avec des plantes vertes et fleuries. Donc ça, c'est l'agréable. On joint l'utile à l'agréable.
Un investissement qui peut aller jusqu'à 13 000 euros, mais qui s'étale sur 40 ans et qui demande très peu d'entretien.
Le reportage de Delphine Schiltz pour Europe 1.
6h05 sur Europe 1 et c'est une nouvelle ère qui débute de la meilleure des manières pour l'équipe de France de foot.
Celle de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus. Premier match de qualification pour l'Euro et première victoire, 4-0 contre les Pays-Bas. Et Cyril de la Morinerie, le nouveau patron des Bleus, a répondu présent.
Oui, pour son premier match en bleu comme capitaine, Kylian Mbappé a été rayonnant. D'abord en délivrant une passe décisive, ou plutôt un caviar pour son désormais vice-capitaine Antoine Griezmann, et surtout en s'offrant un doublé. Kylian Mbappé, avec le brassard autour du bras, est un nouveau patron écouté et apprécié, confirme son coéquipier Aurélien Tchouaméni.
Ouais, capitaine exemplaire, il marque des buts, il galvanise l'équipe, il a eu aussi un discours avant le match pour motiver les troupes.
Des bleus en réussite comme le gardien Mike Maignan, le Milanais qui remplace désormais Lloris dans les buts, a arrêté un pénalty de la star Depay. Dans un stade de France plein, les bleus voulaient réussir leur grande rentrée, explique le capitaine Kylian Mbappé au micro de TF1.
On s'est préparé toute la semaine avec l'idée qu'on ne pouvait pas décevoir notre public. Voilà, c'était la première fois qu'on rejouait ici depuis le Mondial. On est très contents, c'est un premier pas réussi. Maintenant, tout reste à faire dans ce groupe.
Une soirée parfaite pour cette équipe de France, en tête de son groupe de qualification pour l'Euro 2024, et qui jouera lundi en Irlande.
Les Bleus en tête de leur groupe, devant la Grèce, hein, vainqueur de Gibraltar 3-0 hier soir. Et puis cet après-midi, ce sont les Bleus et les espoirs de l'équipe de France qui jouent match amical contre l'Angleterre à 18h.
Et c'était le journal de Victor Porcher. Merci Victor. Valérie Darmon à 6h07 sur Europe 1, vous nous dites que le temps est calme. Hein.
Oui, et calme, c'est important parce que demain, il ne le sera plus du tout.
Ah,
alors, ce matin, on en profite d'aujourd'hui. Bon, ce n'est pas terrible non plus du côté du ciel. Il ne faut pas exagérer. Hein. On a des averses qui circulent sur un grand quart nord-est et de la Normandie et des frontières du Nord jusqu'au Limousin, jusqu'en Auvergne, jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Le vent qui souffle toujours assez fort, autour de 60 km/h, jusqu'à 80 en rafale sur le nord. Dans l'après-midi, ce ciel qui se calme avec quelques averses toujours au nord de la Seine jusqu'au Grand Est, mais avec quelques éclaircies. Le vent qui reste soutenu. Et puis sur la façade atlantique, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, jusqu'au nord de l'Aquitaine, en fin de journée, il va pleuvoir à cause d'une nouvelle dégradation. Mm-hmm. Pluie et vent vont se renforcer en soirée par la pointe bretonne. Et dans le sud, le ciel qui est voilé, le vent d'ouest qui souffle assez fort aussi, jusqu'à 90 km/h sur le Var et sur l'intérieur des Alpes-Maritimes.
Et que nous dit le thermomètre, Valérie?
Alors, on est toujours dans la douceur. Ouais. Ça, c'est notre consolation du jour. Avec actuellement 14 à Perpignan, 13 degrés à Toulon, 11 degrés à Cognac et à Nice, 10 degrés à Bordeaux, à Nantes, à Biarritz, et à Marseille, 9 à Paris, à Tours et à Nancy, 8 à Agen et à Nîmes, 7 degrés à Rouen et Orléans et enfin 6 degrés à Mulhouse.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 6h30 dans un instant sur Europe 1, premier invité d'Europe 1 Matin Weekend, Olivier Puech. Sa chaîne Le Potager d'Olivier fait un tabac, il nous dira ce qu'il faut planter en ce moment et comment anticiper les périodes de sécheresse. Mais avant cela... sur Europe 1, il est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les Naïcs, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet, une course au trot attelé qui réunira 15 chevaux âgés de 5 à 11 ans sur la distance de 2850 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic les numéros 11, Hussard du Landrais et 5, Hokkaido Giel, qui se sont distingués au plus haut niveau tout au long de cet hiver à Vincennes. Et ils n'ont qu'à répéter ce qu'ils ont réalisé de mieux pour pouvoir cet après-midi prendre une part active à l'arrivée de ce quintet. On leur opposera Hussein Toll, le numéro 4, un trotteur suédois qui reste sur deux excellentes performances à Vincennes, qui lui confère lui aussi une réelle chance, d'autant plus qu'il sera une nouvelle fois associé à Alexandre Abrivard, un crack driver dont la grande réussite ne se dément pas depuis plusieurs mois, avec Cash du Rib, le numéro 14, toujours aussi vaillant et performant malgré ses 11 ans, et dont ce sera d'ailleurs la dernière course en France. Enfin, les numéros 12, Décoloration, 9, Copsy, 13, Elvis du Vallon et 8, Élite de Giel ont eux aussi des arguments pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 11, 5, 4, 14, 12, 9, 13 et 8.
Et bah c'est noté. Merci beaucoup Thierry, à demain.
Europe 1 Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Le printemps est là, alors on a tous envie de profiter de cette nature qui renaît, de voir nos jardins ou nos balcons pour ceux qui ont la chance d'en avoir fleurir, préparer des ratatouilles. Bref, on parle jardinage ce matin sur Europe 1 avec Olivier Puech. Bonjour.
Bonjour.
Un jardinier, youtubeur, auteur, vous avez de multiples casquettes. Vous avez notamment 400 000 abonnés à votre chaîne YouTube Le Potager d'Olivier. Vous sortez un nouveau livre, on va en parler également dans un instant. Alors les auditeurs d'Europe 1, j'en suis sûr, ont la main verte. Moi, pas du tout, j'ai donc besoin de vos lumières. Est-ce que déjà fin mars, c'est une bonne période pour planter ?
Oh oui, c'est une bonne période pour planter, pour semer. Vous savez, ici, moi, dans le sud de la France, j'ai le potager qui est presque déjà plein. Donc, pour vous dire qu'on peut commencer vraiment à semer et à planter.
Alors, on commence par quoi déjà ? Il y a une saison pour tout, j'imagine. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais ?
Oui, il y a une saison pour tout. Il y a des cultures qui sont plus précoces, qui vont notamment résister à de petits gels. Et le problème au mois de mars, au mois d'avril, c'est qu'on a encore des risques de gel, notamment le climat parisien, dans le nord et même encore dans le sud. Il faut faire attention avec le gel. Donc, on va semer tout ce qui résiste au gel, les épinards, les fèves, les petits pois, les mangetous, même les premières salades, ce sont des semis qu'on peut déjà commencer à semer en pleine terre.
Alors Olivier Puech, vous nous le disiez, vous êtes dans le sud, mais moi si je vis en Bretagne ou si je vis en altitude, je ne vais pas planter mes épinards forcément à la même période de l'année.
Tout à fait, mais je vous dis, ce sont des cultures vraiment qu'on appelle précoces, ces légumes verts qui vont rapidement remplir des paniers de récolte dès le mois de mai. Vraiment, je vous redis, les épinards résistent jusqu'à moins 3, moins 4, moins 5 degrés. Donc que vous soyez en Bretagne, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Lille, au mois de mars, au mois d'avril, ce sont vraiment des beaux mois pour planter ces cultures précoces.
Voilà.
Donc je vous les répète, je vous les répète encore, vraiment les épinards, les fèves, les petits pois, hein, les mangetous. Et en plus, on est sur des cultures qui offrent du goût, on est vraiment sur autre chose que des cultures qu'on va trouver dans le commerce, qui ont subi du transport, du frigo. Là, on a vraiment les blettes du potager, par exemple. Mm-hmm. Hein. On peut commencer à les semer, à les planter. Je vous répète que ça résiste à de petits gels. Donc, au mois d'avril, on peut vraiment, sans retenue, soit semer, soit trouver des plants hein, en jardinerie. Les jardineries proposent déjà des plants de blettes et des feuilles de blettes du potager. Je peux vous dire, on s'en souvient, ça a vraiment... qualité gustative géniale.
Alors Olivier Puech, dans votre livre « Les 10 clés d'abondance au potager d'Olivier », vous donnez un calendrier très précis. Le but, c'est quoi pour les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien qu'ils cultivent complètement leur potager, qu'ils soient quasiment autosuffisants sur toute une année ?
Oui, après l'autosuffisance, c'est un grand mot. Moi, je sais que chaque panier de récolte que je sors du potager, bah, c'est déjà une fierté, c'est du goût. On voit les yeux des enfants qui pétillent, moi le premier, le conjoint. Donc déjà, chaque panier qu'on sort, on peut en être content. Après, si on a 10 mètres carrés, ce sera quelques repas sur l'année. Si on a 100 mètres carrés, eh bien, ce sont des centaines de kilos qui peuvent se profiler. Et puis moi, avec les années, avec les connaissances, la passion, j'arrive à quasiment 500 kilos. Donc là, on peut viser une autonomie. Mais ne pas se mettre des objectifs farfelus. Déjà, se dire que chaque moindre carré, un petit balcon, une terrasse, un carré potager, et déjà, c'est génial quoi, de semer et de planter.
Alors justement, pour les citadins qui nous écoutent peut-être ce matin sur Europe 1, Olivier Puech, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut espérer voir pousser dans les villes ?
Bien sûr, bien sûr. Le moindre balcon, je vous répète, le moindre mètre carré. Alors bien sûr, il faut une épaisseur de terre hein, ouais. ou de terreau, 20-30 cm. Il faut un minimum d'espace, un mètre carré. Et déjà, vous pouvez mettre 4 plants de tomates. Donc après, qu'est-ce qui vous manque ? Une exposition, il faut de la lumière. Hein. Mm-hmm. Nos plants, ça a besoin de lumière, de soleil. Pas forcément sur 12 heures. Mais si vous avez 6, 7, 8 heures de lumière d'ensoleillement, ça suffit hein, pour toutes les cultures. Et là, vous mettez 4 plants de tomates, vous avez 1 mètre carré. Alors au début, ça ressemble à pas grand-chose. Mais 2-3 mois après, vous pouvez espérer récolter 5, 10, 15, 20 kilos sur 1 mètre carré. Alors en plus, quand on voit l'inflation galopante, je peux vous dire, hein, le moindre espace vraiment qu'on peut mettre en culture, mettez-le. Et puis je répète, c'est jumelé avec du goût parce que vous évitez le transport, vous évitez le frigo, vous récoltez à pleine maturité et c'est juste divin, quoi. C'est vraiment fantastique.
On vous sent déjà en appétit, Olivier Puech. Alors évidemment, autre sujet qui est important, on a connu une période de sécheresse en plein hiver, l'été s'annonce encore très compliqué. Est-ce qu'il y a des semis qui sont moins gourmands que d'autres en eau ?
Et il faut dire que l'eau, c'est la première source de fertilité. Vous savez, c'est de la biologie, c'est du vivant. Il faut un minimum d'humidité. Après, le rôle du jardinier, ça va être d'optimiser vraiment la moindre goutte d'eau. Donc, ça passe par un sol qui est perméable, qui est spongieux, qu'on va prendre soin, qu'on va un peu biner en surface pour que la moindre pluie soit stockée dans le sol et non pas n'aille s'écouler. On voit parfois des inondations parce que le sol est trop tassé. Mmh. Donc, vraiment avoir un sol meuble. On peut rajouter un petit paillage aussi pour maintenir l'humidité. Après, vous voyez, moi, par exemple, ici, j'ai des toilettes sèches pour éviter de tirer moins souvent la chasse. Il faut vraiment veiller à une économie d'eau, mais ne pas se... Vous savez, parfois, on entend jardiner sans eau. Ce n'est pas vraiment exact, quoi. Hein.
Ça n'est pas possible.
Surtout un potager. Et ce n'est pas possible. Et puis, surtout, encore plus, quand on jardine biologiquement, il faut que le sol travaille biologiquement. Et la biologie, c'est de la vie. Hein. C'est comme nous. On est de l'eau. On est 80%. Nos légumes sont 80% d'eau. Donc, vraiment... Je dirais plutôt, faites tout pour optimiser la moindre goutte d'eau, pour capter la moindre pluie. Et voilà, préservons au mieux cette ressource.
Il vous en parle un petit peu, vos abonnés sur YouTube. Vous avez des vidéos qui sont vues, j'ai vu, près de 30 millions de fois. Qu'est-ce qui les attire le plus dans le potager d'Olivier ?
Il y a plusieurs sujets. Il y a déjà une quête de sens. Hein. Il faut être conscient qu'on a quand même une société très chaotique. Encore aujourd'hui, vous voyez tous ces mouvements. Et le potager, quelque part, déjà, nous permet de nous recentrer, de nous apaiser, de nous ressourcer. Ça, c'est indéniable, je le ressens énormément. Se rajoute un aspect pécuniaire, même si je ne veux pas rentrer dans une démagogie à dire que le légume sera gratuit. Hein. Il faut quand même du temps, de l'attention, un peu de terreau, quelques graines. Mais on récolte des euros. Hein. On récolte du goût, mais on récolte aussi des euros. Quand on voit le prix du kilo de la tomate,
oui.
Moi, j'ai la chance d'en récolter 50, parfois 100, parfois 200 kilos, multiplié par 3, 4, 5 euros du kilo à la tomate bio. Donc, il y a aussi un gain pécuniaire, mais c'est à la fois une quête de goût, d'existence, hein, vraiment. Hein. Moi, je sais que je travaille à côté et mon heure au potager est vraiment un équilibre à ma vie. Et puis, je vous dis aussi un gain... Voilà, on récolte vraiment sur de multiples facettes.
Et vous le transmettez d'une façon qui nous fait chanter l'oreille. Merci beaucoup Olivier Puech de tous vos conseils ce matin sur Europe 1. Le potager d'Olivier, c'est votre chaîne YouTube. Et puis je vous le disais, hein, on le vous lit également avec les 10 clés d'abondance au potager d'Olivier. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
6h17, bienvenue sur Europe 1. Il est l'heure du journal permanent, Victor Pourchet.
La main tendue d'Emmanuel Macron au syndicat. Je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite me rencontrer, disait le président hier. Les organisations syndicales qui n'ont pas répondu alors que les manifestations qui agitent le pays ont eu un effet diplomatique concret. Le report de la visite du roi d'Angleterre Charles III qui était prévu ce week-end. Joe Biden assure ne pas chercher le conflit avec l'Iran. Déclaration du président américain quelques heures après les frappes aériennes ordonnées par Washington. En Syrie, elles ont tué 14 combattants pro-iraniens. Des représailles à une autre attaque de drones dans la région. Elle avait tué un ressortissant américain et blessé 6 autres. Le SIDAction 2023, c'est parti. L'opération de sensibilisation contre le sida a débuté hier. Elle doit durer tout le week-end. Pour faire un don, rendez-vous sur don.sidaction.org. Et puis en sport, l'équipe de France de football réussit son entrée dans les qualifications pour le prochain Euro. Victoire écrasante 4-0 contre les Pays-Bas. Ça s'est moins bien passé pour nos tennismen au tournoi de Miami. Défaite de Hugo Humbert, de Caroline Garcia aussi au deuxième tour face à la Roumaine Sirstea. C'était déjà elle qui l'avait éliminée du tournoi d'Indian Wells il y a une dizaine de jours. Gros match aujourd'hui pour Richard Gasquet. Il affronte le grec Tsitsipas.
Merci beaucoup Victor. 6h18 sur Europe 1. Dans un instant, nous partons dans le Var, direction dans le sud, direction hier pour le centenaire de la Villa Noailles. Et puis, on va rester dans les recettes de saison, évidemment, puisqu'Olivier Pouls nous propose ce matin la recette de l'artichaut barigoule. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
La balade du samedi avec Vanessa Aza et Olivier Pouls. Bonjour à tous les deux.
Bonjour les amis.
On va prendre un petit peu le soleil. On descend dans le sud à hier ce matin, Vanessa.
Pour fêter le centenaire de la Villa Noailles. Alors on va quand même rappeler qui sont les Noailles. Mm-hmm. Hein. Bon, c'est un peu compliqué hein, quand même hein, parce que c'était quand même deux personnages, deux vrais personnages de roman. Donc Charles et Marie, leur de Noailles, qui se marient en février 1923 à Grasse et qui reçoivent en cadeau de mariage un terrain de plusieurs hectares sur la colline du château et l'ancien couvent Saint-Bernard. Ouais, on n'a pas eu les mêmes cadeaux. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs. Voilà, et ça c'est face aux îles d'Hier, donc pointées vers le sud. Et donc ils se lancent dans une expérience architecturale. Ils veulent réaliser une maison de vacances pour l'hiver. Hein, évidemment, c'est en pleine mode. Et ils contactent Le Corbusier, Miss Van Der Ho et Malet Stevens, qui sera choisi au final pour dessiner les plans de cette petite maison intéressante à habiter, je cite. Et c'est pourquoi le centenaire est lancé par une exposition consacré à Malet Stevens, jeudi à la Villa Noailles. Et puis va s'enchaîner une promenade autour des ateliers d'artistes hier, qui a été imaginée par le Centre d'Art.
Et alors pourquoi une promenade artistique justement pour ce centenaire?
Eh bien parce que dans cette maison sont passés les plus grands artistes du monde, de la peinture, du cinéma, de la danse. C'est Jean-Pierre Blanc, le directeur de la Villa Noailles, qui va nous dévoiler quand même quelques noms.
Man Ray qui tourne un film sublime, Les Mystères du Château de D, Louise Buñuel qui écrit le scénario avec Salvador Dali de L'Âge d'Or, Alberto Giacometti qui fait une grande sculpture pour le jardin des Noailles à Hier, Charlotte Perriand, Hélène Gray, Pierre Charot, Jean-Michel Franck, tout le monde absolument fera un projet pour ce château cubiste de Saint-Bernard. Et voilà, il vivra des fêtes mémorables et des moments familiaux divins jusqu'à 1970, la date du décès de Marie-Laure de Noailles.
Il y a du beau linge, hein.
Il y a du beau linge. Donc on a la réponse. Hein. Ils ont vraiment fait rayonner l'art du XXe siècle. Vous avez une très belle programmation qui vous attend tout au long de l'année. Il y a la Design Parade au mois de juin, à Hier et à Toulon, où la Pierre Jovanovic va reconstituer leur mobilier, leur appartement. Il y aura un concert d'une pièce de Nabokov le 31 juillet sur le parvis de la Villa. Et puis la 38e édition du Festival de mode et de photographie, où cette fois-ci, la garde-robe de Marie-Laure de Noailles va reprendre vie avec Chanel, Lanvin, Schiaparelli. Et ça, c'est du 12 au 15 octobre. Vous trouvez tout sur le site de la Villa Noailles.
Moi, j'ai très envie d'y aller. Où est-ce que je peux aller me loger?
Alors, à la Reine Jeanne, sur le petit port de Légade, parce que 14 chambres ont été designées par 14 artistes qui ont participé au concours du Festival Design Parade. Reste dans le thème.
Alors maintenant que j'ai préparé mon petit week-end, je vais préparer de façon un peu plus gastronomique avec vous, Olivier, avec l'artichaut barigoule. Moi, j'adore les artichauts.
Eh bien, on va rester dans la région. C'est vrai que la Provence, c'est le pays de l'artichaut. Enfin, aujourd'hui, en France, vous savez, le petit
l'artichaut de Bretagne, on a le gros aussi.
Il y a un grand match entre l'artichaut breton, qui est le gros artichaut, en général, dont on utilise plutôt le fond. Et le petit artichaut poivrade, artichaut violet de Provence.
Beaucoup plus élégant, c'est ça.
Qui est un peu plus élégant et on mange davantage les feuilles c'est d'ailleurs, facile. Puisqu'il est un peu plus tendre. Ouais. Alors, l'artichaut, la légende prétend que c'est évidemment Catherine de Médicis qui l'aurait amené en France. On a un peu de doute parce que quand on regarde l'histoire de la cuisine, elle aurait à peu près amené tout.
Oh, c'est ce que j'allais vous dire.
Non, très franchement, probablement ce sont des émigrants italiens parce que l'artichaut vient vraiment d'Italie. Ça, on le sait. Il était connu à Naples dès le 15e siècle. Ce sont probablement des migrations italiennes qui l'ont amené chez nous en Provence où il s'épanouit extrêmement bien. Et alors l'artichaut à la barigoule, c'est une grande recette traditionnelle et provençale, là pour le coup. Alors pourquoi barigoule? Parce qu'à l'origine, cette recette comportait un champignon qui s'appelait la barigoule. Voilà, c'était un artichaut qui était préparé avec un champignon, mais on ne sait pas très bien pourquoi ce champignon a totalement disparu du paysage. On n'en trouve plus. Le nom de la recette est resté et on a remplacé les barigoules par des champignons de Paris. Bon, ça marche quand même. Ça vous fait une belle recette que je m'en vais vous donner tout de suite.
Allons-y.
On commence à trouver les premiers petits bouquets d'artichauts sur les marchés. J'en ai vu. Alors, il faut arriver à les tourner. C'est une technique qui est un petit peu difficile. Vous savez ce que c'est tourner les artichauts?
Non.
Alors, on casse la tige de manière à enlever les fibres. Et ensuite, avec un couteau bien aiguisé, on va tourner tout autour de l'artichaut de manière à enlever les premières feuilles qui sont les feuilles les plus dures. On va le couper, on va lui couper la tête, on va le décapiter. On peut enlever le petit foin qui traîne, mais il n'y en a pas beaucoup dans les petits artichauts poivrades. Et puis, on va légèrement éplucher la tige pour enlever, là aussi, la surface qui peut être un petit peu dure.
Un petit peu de travail.
On va les cuire pendant une petite quinzaine de minutes dans de l'eau. Il faut un peu les citronner quand on les a tournés, parce que sinon, ils noircissent extrêmement vite. Et ensuite, dans une casserole avec une petite carotte, un céleri et une échalote taillée très, très finement en bavarois, quelques champignons de Paris coupés en quatre, un petit verre de vin blanc, des lardons en dés. On fait revenir tout ça, on rajoute nos artichauts, un petit peu de bouillon de volaille, on laisse compoter pendant 4-5 minutes, il faut garder encore du croquant les artichauts et dans les légumes, et puis on termine avec basilic, thym, laurier, un petit peu d'herbe par tout ça. On commence à arriver dans l'ambiance du printemps.
Merci Vanessa, merci Olivier. Olivier, on va vous retrouver évidemment tout à l'heure à 11h à la table des bons vivants avec notre camarade gourmand Laurent Mariotte. Il reçoit Daniel Auteuil aujourd'hui et il vous fait gagner un super robot, il vous dira tout. En voilà une bonne idée. Bonne idée, c'est aussi la chanson de Jean-Jacques Goldman qu'on écoute tout de suite sur Europe 1. De quoi vous accompagner jusqu'au journal de 6h30.
Bonne idée.
Et la bonne idée, c'est d'écouter Jean-Jacques Goldman dès le réveil ce matin. Bienvenue sur Europe 1. Il est 6h30, l'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Clément Barguin. Bonjour.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Des grèves et des blocages qui perdurent, de nouveaux appels à manifester. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit avec une radicalisation qui inquiète notamment les commerçants.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient réunis à Bruxelles pour un conseil de transition sur le nucléaire et la fin des moteurs thermiques. Les différends persistent entre la France et l'Allemagne.
Et puis c'est un joyau architectural parisien niché à l'orée du Bois de Boulogne, la mythique Villa Windsor va ouvrir au public en 2024.
Au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Benchemann se rend chez l'actrice et metteuse en scène Muriel Mayette-Holtz. Mathieu Alterman dédie lui sa chronique aux slow les plus mythiques du cinéma. Et puis juste avant le journal de 7h, la signature Europe 1 de Gaspard Proust, ce sera face à Marine Le Pen. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, du vent encore fort au nord de la Seine avec des giboulées, des éclaircies sur l'ouest avant la dégradation de ce soir qui arrive sur la Bretagne.
Et météo complète juste après le journal. Une semaine après l'adoption de la réforme des retraites, la contestation, Clément, ne faiblit pas.
Après la très forte mobilisation de jeudi, les syndicats entendent bien maintenir la pression. Une nouvelle journée de mobilisation est organisée mardi. Les derniers rassemblements ont été émaillés de violences, comme à Paris où plus de 900 feux ont été allumés jeudi soir. Certains craignent une radicalisation du mouvement, notamment les commerçants du quartier de l'Opéra, peu habitués aux manifestations. Simon Bourtembourg.
Façade noircie par les flammes, poubelles calcinées et vitrines taguées. La place de l'Opéra porte encore les stigmates des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le 9e arrondissement parisien, théâtre de violence, un quartier des commerçants moins habitués aux dégradations des casseurs. Nathalie est gérante d'un kiosque depuis 10 ans.
Tout a brûlé, il y a plein de marchandises qui sont fondues. C'est la première fois. Parce que d'habitude, les manifs ne se terminent jamais ici, donc on est un peu épargné, mais cette fois-ci... Et après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, s'ils vont remettre un nouveau kiosque et qu'ils vont nous refaire la même chose. Enfin, c'est compliqué.
En face, la bijouterie de Stéphane a été vandalisée. Les vitrines sont fracturées. Plusieurs montres de luxe ont été dérobées. Le cinquantenaire avoue avoir été pris de court.
Ça a déjà été un lieu de rassemblement au moment des Gilets jaunes. Maintenant, on croise les doigts. Évidemment, je souhaiterais que ça ne soit pas le cas pour la suite.
Une crainte est partagée par tous. Celle de voir le quartier de l'Opéra devenir un lieu fort de la contestation à Paris.
Et les GPN a été saisi hier après les menaces et intimidations proférées par des policiers de la Brave grave M contre de jeunes manifestants à Paris. Le préfet de police Laurent Nunez dénonce des propos inacceptables que l'on peut entendre dans un enregistrement audio lors de la garde à vue.
La gestion du maintien de l'ordre qui d'ailleurs est pointée du doigt par le Conseil de l'Europe.
La commissaire aux droits de l'homme de l'organisation s'alarme d'un usage excessif de la force envers les manifestants contre la réforme des retraites, appelant la France à respecter le droit de manifester.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient réunis à Clément à Bruxelles pour un sommet européen.
Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'Ukraine et notamment les livraisons de munitions, la compétitivité, le commerce, l'immigration ou encore l'énergie. Des sujets pour certains clivants mais qui ne nécessitaient pas d'être tranchés de manière urgente. Dans ce contexte, les dissensions entre Paris et Berlin sont revenues au premier plan, Laura Van Lerberg.
Oui, d'abord sur la fin du moteur thermique en 2035. Après en avoir soutenu le principe, l'Allemagne s'y oppose. Le pays demande une dérogation pour les carburants synthétiques. Une volte-face qui empêche le texte du Green Deal européen d'être adopté. Côté français, on tient à l'échéance de 2035. On redoute que les engagements climatiques de l'Union européenne ne soient respectés. Pour clarifier ses positions divergentes, Emmanuel Macron a rencontré son homologue allemand.
Le chancelier était très clair sur le fait que ça ne remet pas en cause l'objectif européen à 2035 d'avoir des véhicules sans émissions de CO2. Et dans ce cadre-là, sans rouvrir le trilogue, de pouvoir trouver les modalités techniques pour apporter la réponse à ce que nous avions déclaré ensemble. Donc il n'y a pas de désaccord sur ce sujet entre nous.
Autre division, l'énergie nucléaire. La France et 10 autres pays veulent obtenir la reconnaissance de l'atome pour décarboner l'économie dans tous les textes européens. Ce qui ne plaît pas à l'Allemagne et quelques pays anti-nucléaires.
Laura Van Lerberg, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
À 6h34 sur Europe 1. Aujourd'hui, demain ce sera une autre heure, hein, Clément. C'est la nuit qu'on redoute le plus, nous qui travaillons la nuit, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Cette nuit, toute l'Union européenne va passer à l'heure d'été.
À 2h du matin, il sera 3h et oui, c'est donc une heure de sommeil en moins. Les changements d'heure qui peuvent parfois être difficiles à supporter pour nos organismes. Alors comment se préparer à l'heure d'été tout en douceur? Alexandra Gégy nous a glané quelques conseils.
Eh bien, il existe quelques petites astuces pour adapter son organisme au changement d'heure. Armelle Ranciac, spécialiste du sommeil, vous recommande par exemple de faire du sport aujourd'hui.
Ça va augmenter la température corporelle, ce qui facilitera du coup sa chute après pendant le sommeil et donc ça consolidera le sommeil. Il y a vraiment un lien très fort entre la température corporelle et l'intensité du sommeil. Et donc ça va être plus restructurant.
Et pour les moins sportifs, autre astuce, s'exposer à la lumière du jour le plus longtemps possible.
Parce que c'est aussi un facteur très important pour bien synchroniser l'horloge centrale qui est dans le cerveau. Donc s'exposer une demi-heure, même une heure, c'est encore mieux, de préférence le matin.
Et pour ne pas creuser ce déficit de sommeil dans les jours qui suivent un changement d'heure, la spécialiste recommande de se coucher plus tôt et d'avoir un mode de vie discipliné malgré l'arrivée des beaux jours.
Les précisions d'Alexandra Gégy pour Europe 1. Donc ce soir, on se couche
ouais, c'est
tôt
plus
et on se
dit qu'il fait. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, Clément, c'est de quoi on parle. Hein. On va terminer ce journal avec la mythique Villa Windsor à Paris. Elle va ouvrir ses portes au public.
Une ancienne demeure de la royauté britannique qui se trouve dans le bois de Boulogne. Si jusqu'à présent il n'était pas possible de la visiter, elle va être restaurée pour ouvrir au public en 2024. Le Conseil de Paris a voté l'attribution de la Villa Windsor à la Fondation Mansart qui sera chargée de sa réhabilitation et de sa gestion. Nina Droff nous raconte l'histoire de ce joyau architectural.
Construit à la fin du 19e siècle, cet hôtel particulier, caché au cœur du bois de Boulogne, a connu plusieurs occupants prestigieux, raconte Albéric de Montgolfier, président de la Fondation Mansart.
Dès août 1944 jusqu'en 1946, le général de Gaulle et sa famille habitent dans cette maison. En 1953, c'est l'ancien roi d'Angleterre, Édouard VIII, et son épouse, la duchesse de Windsor, qui vont emménager dans la Villa Windsor. En 1986, la maison est attribuée à M. Al-Fayed, qui prévoit d'y installer son fils, et qui doit épouser Lady Di.
Dans cette villa, les visiteurs pourront découvrir le style de mobilier des années 20 et en apprendre davantage sur l'art de vivre de l'époque.
Ce qui est très intéressant, ce sont les aménagements qui ont été apportés par le duc et la duchesse de Windsor, puisqu'ils ont demandé à un grand décorateur de l'époque, Eugène Boudin, de décorer cette maison. Personne n'y est rentré. Ce sera la première fois où on pourra découvrir l'intimité de grands personnages tels qu'ils vivaient dans cette maison.
Ce haut lieu d'histoire sera ouvert au public à l'été 2024.
Nina Droff du service Société d'Europe.
Et c'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément.
6h37 sur Europe 1, on vous souhaite un excellent réveil avec la météo de votre week-end. Valérie Darmon, qu'est-ce que ça va donner pour nous côté ciel?
Alors aujourd'hui, ben plus ou moins gris, plus ou moins maussade, plus ou moins pluvieux sur la moitié nord en attendant l'arrivée d'une sérieuse dégradation en Bretagne en toute fin de journée avec un vent qui souffle toujours assez fort, hein, surtout en bord de mer. Au sud de la Loire, le temps qui reste sec sous de plus en plus de soleil en allant vers les Pyrénées et la Méditerranée, soleil voilé. Et le mercure qui affichera 7 à 10 degrés ce matin et 12 à 16 cet après-midi, plutôt agréable.
Alors il faut en profiter aujourd'hui Valérie parce que vous nous dites que demain ça se dégrade. Hein.
Alors là aussi c'est très sérieux, on en profite vraiment aujourd'hui parce que demain c'est vraiment un peu la catastrophe avec cette très forte perturbation qui traverse la France d'ouest en est avec des vents qui vont se renforcer en particulier sur l'arc atlantique, en montagne, autour de la Méditerranée. En Aquitaine attendez-vous à des rafales à 100 km/h, des vagues de 5 mètres au large, un net renforcement des vents attendu en soirée et dans la nuit de dimanche à lundi sur la Côte d'Azur, la Corse et les reliefs cévenols. Tout cela évidemment sous la pluie. La pluie, on en a besoin et on aura sans doute des alertes oranges.
On en profitera pour faire une petite sieste puisqu'on va perdre une heure de sommeil. Finalement, ça tombe plutôt
ça,
bien.
Ça, c'est certain, pour nous surtout.
Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 7h. Et puis, dans quelques minutes, c'est Mathieu Alterman et ses slow iconiques du cinéma qui sera dans ce studio. Mais avant cela...
Europe 1 Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
À 6h38 sur Europe 1, vous avez reconnu la petite musique du drôle d'endroit pour une rencontre de Naïma Benchemann. Elle est accompagnée ce matin de Muriel Mayette, rencontre chez elle, où l'ancienne directrice de la Comédie Française se recueille avant de monter sur scène.
Bonjour Muriel Mayette-Holtz.
Bonjour.
Vous êtes une grande dame de théâtre. Vous êtes actuellement la directrice du Théâtre National de Nice. Vous avez été la première femme à diriger la Comédie Française, où plus jeune vous aviez été pensionnaire, la première femme à avoir dirigé la Villa Médicis à Rome. Je m'arrête là ou je continue?
Non, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je suis surtout membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est un compagnonnage à vie.
Alors, drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1, c'est chez vous que vous m'avez invité. On est dans une pièce assez sobre. Vous allez m'expliquer pourquoi?
Parce que vous m'avez demandé quel est l'endroit que tu aimes. Alors, au fond, il me semblait que ce qui me définirait le mieux, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais avant de rentrer en scène. Là, je suis dans un appartement que j'ai la chance d'avoir à Paris. Et il est volontairement très, très dénudé parce qu'en fait, j'ai besoin de pages blanches régulièrement dans mon métier.
Ouais, tous les murs sont blancs, là, dans cette pièce.
Oui, il y a peu de livres par rapport à ma maison.
Oui. Même s'il y en a quelques-uns que j'ai aperçus dans le salon en arrivant.
Oui, j'ai besoin d'endroits où c'est comme de dormir quelques minutes avant de jouer. Des endroits pour que tout reprenne de la valeur, ouais. Qu'un livre s'inscrive profondément dans mon sang.
C'est votre refuge un peu.
Exactement. Ouais. Je suis une femme plutôt de troupe.
Oui.
Et donc, parfois j'ai besoin de solitude. Ma vraie maison, c'est le plateau et la Comédie Française parce que j'y ai appris mon métier. J'ai cet espoir d'y retourner y jouer un jour. C'est une façon de vivre avec peut-être davantage la petite fille que j'étais. Parce que être sur un plateau, c'est être dans la nuit de tous les possibles.
Ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est que vous êtes un révélateur. J'ai déjà eu la chance de vous observer diriger au Théâtre National de Nice. Vous êtes vraiment une passeuse. Vous avez ce don de savoir voir la lumière dans ceux qui vous entourent.
J'aime passionnément les acteurs et passionnément le public. Et donc, j'aime que ça advienne. Ouais. J'aime ce partage-là. Oui, c'est vrai.
Vous êtes très chaleureuse.
Je suis surtout, je crois, une amoureuse.
Ouais, vous êtes une amoureuse des gens, une amoureuse de la vie.
Oui, ouais. Absolument. Meraviglioso,
il bene di una donna. Alors, les acteurs, vous en avez beaucoup dirigé. Mais aujourd'hui, vous êtes de retour à vos premières amours, celle d'être actrice. Et vous êtes à l'affiche des Parents Terribles, aux côtés de Marianne Medeiros
et Charles Berling, vous aviez cette envie de retourner au jeu, d'être à nouveau sur la scène, mais vous, pour vous.
J'ai toujours envie de jouer. Parce que quand on joue, on rentre un peu en désobéissance. Ouais. C'est une grande récréation. Ouais. Même si c'est parfois des sujets graves, c'est un grand bonheur.
Il y a un fantôme de femme, une très jeune femme, qui circule dans la maison. C'est faux!
Qu'est-ce que j'ai fait?
Tu n'es pas rentré hier soir! Tu as découché!
C'est incroyable!
Votre interprétation, elle est à couper le souffle. Vous êtes à nu sur scène pendant 2 heures. Vous êtes sans maquillage, vous jouez le rôle d'une mère toxique, vampirisante, aimante. Vous passez par toutes les couleurs de l'âme humaine jusqu'aux confins de la folie. Comment on se prépare un tel rôle, Muriel Mayette?
On se laisse faire par le texte. Ouais. Et on se muscle assez avec ses partenaires.
Le texte de Jean
et son
Cocteau.
Metteur en scène, le texte de Jean Cocteau, absolument.
Qui peut empêcher une mère d'être amoureuse folle de son fils?
Cette mère qui aime passionnément son fils et qui dit cette phrase géniale, oui. Partagez jamais. Oui. Mais les autres personnages sont plus tordus.
Véliques. Oui, parce qu'à la fin, on finit par se demander qui était le plus toxique quand même de tous.
Papa, je te présente Madeleine.
Un homme trompé, c'est déjà risible. Mais si cet homme est trompé par son propre fils... C'est l'explosion de rire.
C'est une succession de chaos
oui, oui.
qui est parfois très drôle, parfois terriblement désarmant, mais ils ne savent pas s'arrêter dans leur abîme.
Bien sûr.
Et
c'est des parents terribles. Quoi.
Exactement, exactement.
Une parfaite tragédie en forme de comédie.
Drame ou comédie, c'est un chef-d'œuvre.
Je voudrais, Muriel Mayette, avant d'achever ce drôle d'endroit pour une rencontre, qu'on fasse rêver un peu les auditeurs d'Europe 1 parce que vous êtes la directrice du Théâtre National de Nice et vous avez créé quelque chose auquel j'ai eu la chance d'assister à Nice, sont les Contes d'Apéro.
Alors les Contes d'Apéro, ils commencent à peu près le 10 juillet jusqu'au 15 août et c'est tous les soirs non-stop à 19h pendant une heure et demie.
Près de la Coulée Verte à Nice.
Dehors, en plein air, c'est gratuit. Il y a un monde fou. Il y a des acteurs qui jouent des pièces, des acteurs qui lisent des pièces, des musiciens. C'est une proposition de spectacle vivant.
On sent que vous aimez vraiment ce que vous faites. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez une grande amoureuse.
Oui, parce que j'aime quand cette rencontre entre le public et le créateur, l'artiste, fait que le temps s'arrête.
Oui.
Et qu'en tout cas, ce moment est important.
Vous le suspendez comme ça,
exactement.
Avec des petites parenthèses.
Et la vie est quand même plus forte comme ça.
Grand merci, Muriel Mayette, de ce drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1 extrêmement chaleureux, où vous nous avez permis de mieux découvrir votre intérieur au sens figuré comme au sens propre, puisqu'on est chez vous, force de la nature, pépite d'humanité, bête de scène, merci d'avoir la verve au cœur.
Merci pour vos mots.
Un drôle d'endroit pour une rencontre que vous retrouvez évidemment sur europe1.fr ou en podcast sur notre application.
Europe 1 matin week-end.
Lénaïque Monnier.
Il est 7h moins le quart sur Europe 1, il est l'heure du journal permanent Clément Barguin.
Les Deux-Sèvres se préparent à une nouvelle manifestation interdite contre le projet de méga-bassine. 5 mois après la dernière qui avait donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, des milliers de personnes sont attendues à Sainte-Soline pour un rassemblement annoncé comme historique par ses organisateurs. Plus de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés. La pression était devenue trop forte. La visite d'État du roi Charles III en France, prévue de dimanche à mercredi, a été reporté hier en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Pour Éric Ciotti, ce report est une honte. Le président des Républicains dénonce l'impuissance déboussolée d'Emmanuel Macron. La mobilisation contre la réforme des retraites et la gestion du maintien de l'ordre pointée du doigt par le Conseil de l'Europe. La commissaire aux droits de l'homme de l'institution dénonce un usage excessif de la force envers les manifestants. Elle appelle la France à respecter le droit de manifester. La France qui aura tout de même réussi à briller en ces temps troublés, l'équipe de France de football s'est largement imposée hier soir face aux Pays-Bas. 4-0, c'était son premier match des éliminatoires de l'Euro 2024.
Merci Clément, il est 6h46 sur Europe 1. À suivre, Gaspard Proust face à Marine Le Pen, c'est l'extrait que nous avons sélectionné pour vous ce matin, séance de rattrapage. Et puis, dans un tout petit instant, c'est Mathieu Alterman qui va me rejoindre dans ce studio. Quart d'heure américain ce matin sur Europe 1 avec les slows les plus mythiques au cinéma. A tout de suite.
Europe 1 matin.
Matin Weekend.
Lénaïque Monnier. Il est d'humeur romantique ce matin. Mathieu Alterman est avec moi en studio. Bonjour Mathieu.
Bonjour chère Lénaïque.
Ouh là là, vous êtes un sacré nostalgique des quarts d'heure américains. Ça s'entend tout de suite parce que vous parlez des slows les plus cultes du cinéma ce matin.
Parce que j'aime passionnément certaines musiques qui me ramènent les années en arrière devant des films plus ou moins réussis mais sublimés par leur bande originale. Parce que je milite pour le retour du slow, cette danse qui a tant fait pour faciliter notre adolescence entre abondance de gel capillaire et overdose de Biactol. Venez danser avec moi Lénaïque, j'espère que le film va vous plaire. Avec un physique de nounours, Mort Schumann nous balançait des chansons imparables pour emballer, comme on disait alors sous Giscard, et cette hymne au flirt estival est tirée du film « À nous, les petites anglaises » de 1976, année de la canicule, tout est lié.
Oui.
Schumann connaissait ses classiques, et deux ans plus tard, il récidive avec ça.
Il y a 15 ans à peine, il y a 15 ans déjà.
Ça, c'est l'hôtel de la plage. Je fonds, Mathieu, je peux même pas résister.
Comme vous y allez. En tout cas, la mode des chansons d'amour dans le 7e art était lancée et les Français ont même devancé les Américains. On est French lover quand même. Et l'amour, Pom Memphis, il connaît. Il possède même un love computer pour savoir qui est fait l'un pour l'autre.
Destiné.
Guy Marchand déteste cette chanson qui est en réalité l'été indien joué à l'envers, mais qu'importe, un culte dans deux films, Les Sous-doués en vacances et également...
C'est un bon slow.
Le Père Noël est une ordure, vous avez reconnu, tous deux en 1982, une année moite et propice aux ébats puisque c'est au même moment que Sophie Marceau, alias Vic Berreton, découvre dans La Boom 2, avec Pierre Cosso, des plaisirs alors inconnus dans La Boom 1.
On retombe en adolescence, Mathieu. Alors, il y a Hollywood qui sort aussi l'artillerie lourde la même année avec Officier et Gentleman, Richard Gere et Debra Winger.
Prestige de l'uniforme, accompagnons ce slow redoutable de Joe Cocker et Jennifer Warnes. Personne n'y résiste. On change pas la formule et on passe de la marine à l'aviation en 1986 dans Top Gun avec Take My Breath Away du groupe Berlin. Le slow de cinéma trouve alors la formule magique, il est la bande-son de l'héroïsme. Il évoque la bravoure, l'aventure, les câlins et aussi un peu les soirées célibataires losers au collège. Mais qu'a-t-il de plus que moi, Kevin Costner ?
Et ben, ce qu'il a de plus, c'est qu'il est et Robin des Bois et garde du corps, Mathieu, désolé.
Ouais, bon, ok, j'abdique. Et alors que certaines de ces chansons trop roses m'ont parfois agacé, je suis contraint d'avouer cette évidence aujourd'hui. Ces slow moments qui ont marqué ma génération, celle des petits garçons timides qui n'avaient Dieu que pour les petites Justines avec lesquelles nous rêvions secrètement d'une jolie danse. À demain.
À demain, Mathieu.
Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
À 6h52 sur Europe 1, la tendresse, lui, c'est moins son truc. Je vous parle du caustique Gaspard Proust qu'on réécoute. Comme chaque samedi, les meilleurs extraits, puisqu'il intervient chaque mardi, mercredi et jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il nous livre son regard face sur l'actualité. Et mardi dernier, il était face à Marine Le Pen.
Ah bah comme dirait Zemmour, c'est une vieille copine hein.
À ce point-là.
Ah oui, non mais maintenant que je suis rangé avec Sandrine Rousseau, je peux le dire, il y a prescription. Je lui ai déjà fait mon petit numéro de charme à Marine.
Où vous êtes-vous croisé?
Ah bah c'est sur le dance floor, une soirée à Vienne sur le thème Stalingrad Night Fever.
Vous faites des trucs louches quand même hein.
Bah j'étais invité pour l'animation, vous savez, moi les soirées Bretzel Panzer et culotte de veau, c'est un peu mon truc.
Et comment s'est passée cette rencontre?
Bah à un moment on était en train de danser, de faire le tour de table avec des chaises comme ça, highly high low façon la grande vadrouille, et c'est là que je vois. Ah zut, j'ai pas. Et là, je repère contre une nana, contre le mur, une nana un peu timide, blonde aux yeux bleus, avec un sacré de Birmanie dans les bras. Ça m'a ému. Je me suis dit, bon, elle, on sent qu'elle a jamais digéré Dien Bien Phu.
Vous l'avez donc abordé.
Oui, en élégance. Hein. Hello, he gets the mine pussycat. Et là, cet enculé de chair. C'était.
J'ai l'impression que c'est pas simple entre vous et les chats. Hein.
Ah, je le dis ce matin à l'antenne et je m'en fous de perdre tous nos auditeurs chatophiles, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le chat est au mobilier domestique ce que le casseur est au mobilier urbain. Tu, vois
oh non.
Tu laisses cet enfoiré tout seul pendant un jour, il te refait le canapé, les rideaux, c'est, tu rentres chez toi, t'as l'impression que ton appart a été refait par un styliste qui a fait son stage chez les Gilets jaunes. Tu sais. Alors j'ai mis un peu de griffure sur le canapé pour mettre un peu de danger, de corrosion dans un esprit zade, cosy. Hein. Les coussins, j'ai éventré, j'ai fait voler la plume comme ça pour qu'on respire. Pour que... Et rideau, j'ai fait ma personal touch. Je me jette au sommet, je me glisse pour donner un air un peu fluffy à l'ensemble. Tu vois. Tes chats, ils s'appellent plus Minouche et Chatoun, mais Jérôme et Rodriguez. Tu vois, tu leur laisserais une bombe de peinture, c'est con, ils te mettraient à cap sur les murs.
Bon, sinon, aujourd'hui, vous pensez quoi du Rassemblement National d'aujourd'hui par rapport au Front National de l'époque?
Ah bah ça a changé.
Ouais, comme vous le dites, on sent presque une déception. Comme si des gens comme Jean-Marie Le Pen vous manquaient.
Ah bah si dans les Rolling Stones, tu remplaces Mick Jagger par Marc Lavoine, pour faire un pogo, c'est quand même plus tendu. Hein, tu vois, si à la place de Keith Richards, t'as Kenji, ça va quand même... Faudra prendre plus de drogue pour être dans le même mood. Hein.
Vous êtes en train de nous dire que le RN s'est assagi?
Ah ouais, ouais. Bah, y a qu'à voir le groupe RN à l'Assemblée Nationale. Hein. C'est plus un groupe parlementaire, c'est un salon de manucure. Tu vois, tout propre, tout beau, tout élégant. C'est, tu vois, c'est plus le Front National, c'est baladurisme et réconciliation. Mais bon, ils ont compris le truc, hein, ils sont pas cons. Hein.
C'est-à-dire?
Ah bah, ils ont vu les clochards de LFI faire leur cire, ils ont fait une réunion de groupe, Marine a dit « Bon, vu les pouilleux en face, on va faire un truc un peu plus subtil. » Il y en a un qui a dit « On quoi, on essaie de dire des trucs intelligents ?» Non, 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 surtout pas. Prenez des douches, peignez-vous les cheveux. C'est pas besoin d'en faire plus. Ne dites rien, repassez vos chemises avec un peu de manucure pour les hommes, un peu de gel, les femmes, lésinez pas sur le monoeil, tu vois. Pensez reine du shopping avec une cocarde.
Et, vois, est-ce que vous pensez que ça suffit?
Ah bah maintenant, quand ils prennent la parole, c'est le défilé des gentlemen anglais, tu vois. T'as Yael Braun-Pivet qui est suspendu à son perchoir. T'as le député du RN qui arrive et qui dit « Avant de commencer à m'exprimer, j'aimerais dire à Maître Pivet qui tient en son bec un micro que vous êtes jolie, que vous êtes belle. Si votre chemisette imprimée léopard se rapporte à votre ramage, vraiment, vous êtes l'hôte de ces institutions. » L'autre, elle se met à roucouler, tu vois, elle a jamais entendu un truc pareil. Donc, parce que d'habitude, elle donne la parole à Louis Boyard qui arrive « Ouais, qui de droit, on va bloquer les facs, donne la liste des bâtards qui ont trahi la motion. » Et derrière, t'as le député du RN qui arrive « Bonjour madame, veuillez agréer cordialement mes salutations les plus respectueuses. » Hein, Braun-Pivet, il se dit bah, « Ils sont sympas ces gens, putain, ils sont propres, foutent pas le boxon. » Et en plus, ils ont une arme secrète contre les macronistes.
Ah, une arme secrète hein.
Ah bah, Jean-Philippe Tanguy, au perchoir. Alors lui, c'est l'arme fatale, c'est le Prigogine du groupe. Bonjour à tous et à toutes. Putain, c'est Macron qui parle. Putain, les mecs de Renaissance, ils sont maraboutés. Et l'autre, il a « Taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous les zadistes, le 100.1, ça existe. »
Gaspard Proust que vous retrouvez tous les mardis, mercredis et jeudis dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Prochain rendez-vous sur Europe 1, le journal de 7h. Et puis à 7h10, l'invité d'Europe 1 Matin Week-end, Florence Thun, directrice générale du SIDAction. C'est ce week-end, elle nous dira que oui, le SIDA recule, mais qu'il n'a pas disparu. Il faut donc être vigilant. D'ici là, on vous offre une nouveauté musicale sur Europe 1. C'est Jane avec The Fool. Une nouveauté sur Europe 1, The Fool avec Jane. Il est 6h58. Le journal de 7h arrive dans deux petites minutes sur Europe 1. Et puis l'invitée d'Europe 1 Matin Week-end, Florence Thun, arrive. Elle également, elle est directrice générale du SIDAction. On s'oriente vers un futur sans le mot SIDA. Mais hélas, il est toujours là. Tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1, il est 7h.
Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier.
Et un nouveau journal vous est proposé par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Une humiliation, la presse britannique unanime ce matin après le report de la visite de Charles III en France sur fond de contestation contre la réforme des retraites.
Dans ce journal également, le face-à-face à haut risque à Sainte-Soline. 3200 policiers et gendarmes attendent 10 000 manifestants anti-bassines.
Et puis enfilez vos chaussures, on vous parlera du boom de la randonnée en France.
Après le journal, on reparle d'ici d'Action sur Europe 1 dont nous sommes partenaires. L'opération a commencé hier. Sa directrice générale Florence Thun est notre invitée ce matin. Et puis la note secrète de Fabrice Lafitte, c'est sympathique, de Pink Martini et son fameux « Je ne veux pas travailler ». Elle, elle le veut travailler, c'est Valérie Darmon pour la tendance météo.
Oui, et les températures sont sympathiques cet après-midi avec des valeurs entre 12 à Verdun et 21 à Nice. Heureusement qu'il y a la douceur parce que le ciel est plus ou moins mitigé partout.
Et météo complète évidemment, Valérie, après ce journal.
Europe 1.
La contestation dans la rue a donc eu raison. Victor de la visite royale, Charles III ne viendra pas en France ce week-end.
Trop risqué au moment où le pays est traversé par les manifestations contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a donc reporté la réception du souverain britannique. Le président, au cœur des critiques outre-Manche, Sarah Menaille, et les médias anglais ne sont pas tendres ce matin.
Depuis l'annonce officielle du report de la visite de Charles III, les réactions sur les chaînes d'information britanniques sont quasiment unanimes.
Évidemment, c'est très embarrassant, voire humiliant pour les Français. Et ça donne une très mauvaise image de la France à l'international.
À l'image du journaliste politique David Chazan, dans la presse britannique, on parle bien d'une humiliation. Pour Sky News, le report est, je cite, un embarras majeur pour Emmanuel Macron qui espérait, post-Brexit, soigner les relations de la France avec le Royaume-Uni. On estime ici que c'est un nouveau coup dur politique pour le chef de l'État français qui n'a pas réussi à restaurer l'ordre et le calme dans son pays. Même son de cloche du côté du Daily Mail qui fait un clin d'œil à 1789 en évoquant un Emmanuel Macron humilié encore une fois qui a dû annuler le voyage de Charles III parce qu'il craignait, je cite, un effet Marie-Antoinette. Un peu d'amertume donc ici à Londres, même si finalement tous s'accordent quand même à dire qu'il était mieux pour l'instant de prendre cette décision de reporter.
Et à défaut de la France, le premier voyage officiel de Charles III sera finalement l'Allemagne, arrivée à Berlin du roi d'Angleterre prévu mercredi.
Attention maximale à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, près de 10 000 personnes doivent se réunir sur le site d'une méga bassine.
Il y a 6 mois, une première journée de lutte avait embrasé cette petite commune des Deux-Sèvres. La manifestation de ce week-end a été interdite, mais les militants écologistes sont déjà installés non loin de là. 3200 policiers et gendarmes sont sur le qui-vive, William Molinier.
Plus de 1000 éléments radicaux sont d'ores et déjà sur place. Dans une note qu'Europe 1 s'est procurée, le renseignement territorial qualifie ce rassemblement comme étant à haut risque. Plusieurs actions offensives des manifestants ont été déjouées. Des machettes, des sabres, des engins pyrotechniques ont été saisis hier sur des manifestants qui convergeaient vers les points de rassemblement. Le renseignement redoute des opérations de sabotage menées par des groupes d'activistes sur une ou plusieurs réserves d'eau. Les entreprises, y compris les 450 agriculteurs associés au projet de méga-bassines sont aussi dans le viseur. Ces militants écologistes radicaux envisagent d'utiliser des tactiques de dispersion pour affaiblir le dispositif des forces de l'ordre. Leur mode opératoire consiste à attaquer par petits groupes très mobiles les policiers et les gendarmes tout en utilisant des messageries numériques cryptées pour échapper à la surveillance des services. Les anti-bassines s'étaient déjà réunis à Sainte-Soline fin octobre dernier. 1500 gendarmes avaient été mobilisés, 61 d'entre eux avaient été blessé.
William Molinier pour Europe 1.
7h04 sur Europe 1 et le SIDAction 2023 est lancé. Le coup d'envoi a d'ailleurs été donné hier.
Une mission sensibilisée sur le SIDA qui se répand toujours, notamment chez les jeunes. Pour limiter la transmission, la solution, c'est le préservatif. Depuis le 1er janvier, il est entièrement pris en charge par l'assurance maladie pour les moins de 26 ans. Alors Yasmina Katou, quel est le bilan à ce stade de cette mesure ?
Eh bien, à la question « Avez-vous constaté que plus de jeunes demandent des préservatifs depuis qu'ils sont gratuits ?», le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Philippe Besset, répond sans hésitation.
Oui, incontestablement. C'est effectivement très important l'augmentation par rapport à l'année dernière. Je suis à proximité d'un collège, donc forcément, c'est le public cible. Effectivement, ça se ressent, oui.
Le pharmacien pense qu'avec une meilleure communication ciblée dans les collèges, lycées et facs, le dispositif prendrait encore plus d'ampleur. Mais les chiffres donnés un mois après le lancement de la mesure par le gouvernement sont parlants. 2 millions de préservatifs ont été distribués en officine contre 500 000 l'année précédente. Ce sont donc 90 000 jeunes qui ont pu bénéficier de la mesure en l'espace d'un mois, soit 3 fois plus que l'année dernière.
Yasmina Katou pour Europe 1.
Et juste après ce journal, c'est Florence Thune, directrice générale de SIDAction, qui est l'invitée d'Europe 1 Matin Week-end. En attendant, on vous parle de cette grande préoccupation des Français. En l'occurrence, l'inflation, elle est boostée par le coût des matières premières, vous le savez, mais pas uniquement, Victor.
Les marges des entreprises aussi mises en cause, à en croire une étude. Un temps contenu, elles sont reparties à la hausse. De quoi participer à l'inflation en 2022, Margot Fodéré?
C'est vrai, à la fin de l'année dernière, les entreprises ont reconstitué une partie de leurs marges plombées par la crise énergétique, ce qui explique une bonne partie de la hausse des prix à cette période. Mais leurs marges restent inférieures à ce qu'elles ont pu être par le passé. 18% en moyenne dans le secteur marchand, pointe Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode.
C'est un point de moins que ce que l'on a eu en moyenne de 2010 à 2019.
En revanche, sur le reste de l'année, les entreprises ont plutôt essayé de limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières pour ne pas trop augmenter les prix de vente ni perdre de clients.
Dans un premier temps, quand les coûts augmentaient, les entreprises ont plutôt eu une tendance à ne pas répercuter l'intégralité de ce choc de coûts et ce faisant, en diminuant les marges qu'elles réalisent. Et ça, c'est vraiment l'observation sur la moyenne de l'année dernière.
Et cela semble avoir marché. La Banque de France a revu ses prévisions d'inflation à la baisse pour 2023 à 5,4%.
Les explications de Margot Faudéré pour Europe 1. Un mot de sport, et vous l'avez vécu sur notre antenne et sûrement vibré pour cette victoire sans appel de l'équipe de France de football. 4-0 contre les Pays-Bas, avec un doublé de Kylian Mbappé pour son premier match en tant que capitaine. Et puis j'espère que vous avez fait votre sac, Lénaïque.
Vous l'avez demandé en tout cas.
Je vous emmène sur les sentiers de randonnée. Et d'abord, il vous faut les bases.
Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi.
Les consignes pleines de bon sens de Benoît Poulvord dans le film Les Randonneurs. Alors, on ne sait pas si tous les Français les ont entendus, mais ce qui est sûr, c'est que la randonnée cartonne. C'est même l'activité numéro un des Français en vacances. Les jeunes s'y mettent aussi. Illustration à Lyon, où se tient jusqu'à demain le Salon du Randonneur. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Depuis deux ans, les Français se ruent littéralement sur les sentiers de randonnée, explique Grégory Artigot, directeur de la Fédération française de randonnée.
27 millions de Français ont pratiqué la randonnée au cours de l'année 2021. C'est 9 millions de plus qu'en 2014. Et là, on a une explosion avec la crise sanitaire. Les Français ont été enfermés. Ils avaient besoin de retrouver un contact avec la nature.
Le Covid, accélérateur de randonnée aussi pour les jeunes comme Justine et Joshua, 27 et 30 ans.
J'étais dans un appartement enfermé comme tout le monde. Et quand on a pu enfin partir, j'ai un ami qui m'a dit « Viens, on part faire une randonnée ». Et puis ça a été le déclic. Et depuis, j'ai plus arrêté.
Pendant quelques jours, il n'y a que juste nous et la nature. On peut passer 4 jours sans notre portable, c'est vraiment très agréable.
Épreuve de la vitalité de cette activité, on crée même en France de nouveaux GR. Exemple, le GR 736 présenté par Fabrice Zamuner de l'Office du Tourisme de Millau.
Parce que quasiment de la source de la rivière Tarn jusqu'à Albi, sur 300 km, sur 3 départements, la Lozère, l'Aveyron et le Tarn. Donc c'est l'immersion totale dans la nature, très sauvage, extraordinairement bien préservée.
Une offre française riche et variée, donc avec pas moins de 100 000 km de sentier de grande randonnée. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et ça donne envie, hein. Ça donne envie. Je suis
on
prêt.
On est parti.
Hein. Je vous attends.
Prêt. Prenez le sac à dos, on part après la Europe 1 matin week-end. On embarque aussi Valérie Darmon qui va du coup nous dire si on peut aller randonner.
On peut randonner, mais il faut prendre le parapluie. Parce que toute la France connaît une alternance d'averses et d'éclaircies avec du vent quasi partout aujourd'hui. En Bretagne, en Normandie, sur le bassin parisien, les averses qui sont plus rares. On parle plus d'orages. Vous gagnez même quelques éclaircies sur l'ouest. Partout, le vent va rester sensible tout en faiblissant en cours d'après-midi avant l'arrivée de la nouvelle perturbation par l'ouest ce soir. Mm-hmm. Donc demain, pas question de randonner. Là, il va faire vraiment un temps bien maussade. Il neige aussi sur les Alpes à partir de 1200 mètres, sur le Jura à partir de 1000 mètres. Sur la façade atlantique, là vous êtes au sec et sous un ciel voilé. Dans le sud-est, le vent souffle fort, notamment sur la région PACA. Il s'agit du Mistral et d'un vent descendant des Alpes. Et le ciel est juste dégagé, passagèrement voilé. Alors il fait quand même jusqu'à 21 à Nice.
Ah oui.
Et ailleurs cet après-midi, 20 à Marseille et Perpignan, 19 à Carcassonne et Biarritz, 18 à Bordeaux et Agen, 16 degrés à Paris, à Périgueux, à Tours, 15 à Bourg-en-Bresse, à Embrun et à Troyes, 14 à Guéret et Besançon et 13 degrés à Lille.
Et on adresse un petit salut à Sophie qui nous écoute depuis Reuilly et qui nous dit qu'il fait 11 degrés ce matin. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment pour une nouvelle météo à 7h30. Vous restez sur Europe 1, il est 7h09. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 matin week-end, il s'agit de Florence Thun, directrice générale de Sidaction. C'est tout ce week-end, elle a besoin de vos dons. On revient, à tout de suite.
Europe 1 matin week-end, Lénaïque Monnier.
Il est 7h12 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous êtes en train de vous réveiller avec cet invité que nous avons choisi d'accueillir ce matin sur Europe 1. Il s'agit de Florence Thun. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice générale de Sidaction. Malgré les dernières grandes avancées dans la recherche médicale contre le VIH, la mobilisation et la lutte doivent continuer. C'est tout l'objet de cette campagne 2023, de cette campagne du Sidaction qui se tient ce week-end. J'ai bien résumé, Florence Thun, on maintient la vigilance coûte que coûte.
Oui, tout à fait. On maintient la vigilance coûte que coûte. On a voulu donner de l'espoir en disant effectivement qu'on se rapprochait d'un monde sans sida. C'est vraiment notre espoir. On a parcouru effectivement un long chemin avec de grandes avancées. Néanmoins, c'est important de rappeler effectivement ce week-end qu'il y a encore 1,5 million de nouvelles infections dans le monde chaque année. 650 000 décès en 2021. Pour rappel, l'ONU-SIDA prévoyait de passer en dessous des 500 000 nouvelles infections en 2020. On est à 1,5 million nouvelles infections, donc trois fois plus. Et puis en France également, on est très très vigilant puisque en 2021, on a environ 5000 personnes qui ont découvert leur séropositivité, dont 30% qui sont arrivées au dépistage alors qu'elles étaient déjà au stade sida.
Alors comment ça s'explique ça justement ?
Alors on retrouve à la fois une inquiétude d'aller faire un test. Les gens ont encore peur en fait, du sida. Il y a encore des peurs irraisonnées autour du sida, autour du VIH. Donc, hésitent à aller faire un test. Ne se sentent pas concernés. Pour rappel, parmi ces 5000 personnes, il y a 23% de personnes de plus de 50 ans. Alors que ce sont des personnes qui ont connu, vous savez, c'est la génération des années 80.
La génération sida.
Et qui a oublié aujourd'hui que le VIH était toujours là. Et puis aussi, de la part parfois des médecins qui oublient aussi ou qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas proposer un test de dépistage à leurs patients, parce que quand on parle VIH, on parle aussi sexualité, c'est pas toujours facile. Et de fait, on constate ce retard au dépistage qui met en danger la santé des personnes.
Alors Florence Thune, vous l'évoquiez il y a un instant, il y a quand même eu des avancées, hein, notamment cette année. Est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1, vous pouvez les rappeler ?
Alors, à la fois, on a beaucoup évidemment progressé dans les traitements, hein, puisque ce sont des traitements aujourd'hui qui continuent d'être pris au quotidien, mais qui ont moins d'effets secondaires, mais qui font en sorte que les personnes restent en bonne santé. On sait aussi aujourd'hui que les traitements permettent d'empêcher la transmission du VIH. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que les personnes non seulement restent en bonne santé, mais en plus n'ont aucun risque de transmettre le VIH. Et puis là, évidemment, la recherche progresse. On a des traitements maintenant qui sont disponibles tous les deux mois. Ce sont des traitements injectables. Et c'est vraiment une piste sérieuse aussi pour la recherche. Ça, c'est important parce que on voudrait un jour que la recherche puisse permettre d'atteindre un état de rémission, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, lorsqu'elles sont contaminées, auraient un traitement une fois dans leur vie à prendre. Et ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher et à financer la recherche.
Et à financer la recherche, bien sûr, Florence Thune. Alors, on a aussi ces trois patients qui ont été guéris. Il y a notamment le résultat d'une greffe de moelle osseuse. Est-ce que ça, c'est pour tout le monde ?
Alors non, pas du tout. Hein. Voilà. C'est effectivement... Alors, je ne l'ai pas cité dans les avancées presque volontairement parce qu'effectivement, c'est toujours une piste intéressante pour les chercheurs. Néanmoins, c'est trois cas particuliers. Il y a 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Là, ce sont des personnes qui avaient une leucémie. Il a fallu une greffe osseuse à partir d'un donneur aussi avec des caractéristiques génétiques très particulière. Donc voilà, ça, c'est un petit espoir pour la recherche, mais ce n'est pas pour l'instant un réel espoir pour les 38 millions de personnes qui vivent avec.
Alors c'est pour ça qu'on continue de parler évidemment du sida. Le week-end du Sida Action, évidemment, c'est un moment clé pour vous, avec ce grand barnum télévisuel chez nos confrères de France 2 ce soir. C'est important toujours de mettre la lumière comme ça à la télévision ou dans les radios dont nous sommes partenaires par exemple.
Oui, parce qu'on nous dit souvent d'ailleurs qu'on parle du VIH uniquement autour du week-end du Sida Action ou autour du 1er décembre qui est la journée mondiale. Donc oui, c'est une occasion à la fois de collecter des dons, hein, pour la recherche, pour la prévention, pour l'accompagnement des personnes, mais aussi de rappeler aussi ce qu'est le VIH aujourd'hui, les modes de transmission. Il y a beaucoup d'idées reçues qui reviennent chez les jeunes et les moins jeunes, et ça permet aussi de lutter contre la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH.
Alors justement, c'est Julia Vignali, notre camarade d'Europe 1, qui sera aux manettes ce soir. Alors, il y a un sujet parce que les jeunes, ils sont évidemment concernés. Ils ne seront pas à 21h devant la télévision. Ce n'est pas leur truc, la télévision. Comment vous leur parlez à cette jeune génération ? Quels sont vos moyens de les accrocher ?
On les attend aussi par d'autres canaux. Effectivement, c'est aussi important de parler sur les réseaux sociaux, aussi de faire en sorte que sur les réseaux sociaux ou sur Internet, il y a aussi des sources fiables d'informations. Hein, donc, on les oriente aussi vers des sites Internet fiables. Et puis, on fait aussi en sorte, vous le savez, d'encourager à faire en sorte que les séances d'éducation à la sexualité soient réalisées dans les écoles. Mmh. C'est là aussi un moment de parler de VIH, mais pas que du VIH, hein, de parler de sexualité, de relation à l'autre, et d'entrer pour ces adolescents aussi dans une sexualité épanouie. Et quand on a une sexualité épanouie, eh ben c'est plus facile de se protéger aussi, de prendre soin de soi.
Et vous parliez, Florence Thune, de fausses informations, d'idées préconçues. Quelles sont-elles encore en 2023 ? Ça paraît surprenant parce que ce sont des jeunes gens dont les parents justement sont issus de la génération sida.
Oui, mais année après année, effectivement, on constate que ces idées fausses, elles perdurent. Hein. Une partie des jeunes pensent qu'on peut être contaminé par le VIH en embrassant une personne séropositive, en entrant en contact avec sa transpiration, ou 23% pensent qu'avec la pilule contraceptive, on peut ne pas être contaminé par le VIH. Et ça, effectivement, c'est dû au manque d'informations. Et c'est important de rappeler tout le temps les modes de transmission qui existent réellement, et pas la transpiration, pas le verre d'eau. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, il reste aussi une peur des personnes séropositives. Et ça, c'est vraiment chez les jeunes comme chez les adultes, puisque les jeunes pensent qu'à 90% le préservatif est efficace, mais en même temps, ils nous disent qu'à 25% qu'ils ne seraient pas prêts à avoir une relation sexuelle protégée avec une personne séropositive. Et ça, c'est vraiment paradoxal. Donc on continue aussi à lutter contre la discrimination.
Alors la spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Khatoun, nous rappelait tout à l'heure qu'il y a depuis le 1er janvier ces préservatifs qui sont pris en charge pour les mineurs. Elle nous a fait un petit bilan de cette mesure. Vous vous êtes sentie entendue par les pouvoirs publics à ce moment-là ?
Mais écoutez, c'est quelque chose qui est effectivement réclamé depuis longtemps, l'accessibilité aux moyens de prévention, quel qu'il soit. Donc là, les préservatifs, c'est important, notamment pour les jeunes. On tient aussi à rappeler qu'il existe un traitement préventif qui s'appelle la PrEP et qui peut être aussi utile pour ces jeunes. Donc il faut vraiment démocratiser un petit peu ces moyens de prévention. Et puis nous, on continue aussi à collecter justement des dons pour un jour avoir ce vaccin qui va nous libérer aussi vis-à-vis du VIH.
Alors la campagne du SIDAction, c'est tout le week-end. On va évidemment rappeler comment on peut vous aider, comment donner. Mais comme les Français aiment bien savoir où vont leurs sous, votre chantier principal pour cette campagne 2023, c'est quoi, Florence Thune ?
Alors c'est de continuer à financer la recherche, notamment sur ces pistes de rémission et sur la piste du vaccin. Ça, c'est vraiment notre objectif principal. Et puis aussi, de continuer à encourager le dépistage. Donc, avec les associations qu'on finance, la collecte aussi permet de financer des associations qui, sur le terrain, informent les personnes, les conduisent au dépistage et aussi les aident une fois qu'elles sont dépistées séropositives pour ne pas rester dans l'isolement. Et ça, c'est vraiment aussi important. On a un message fort cette année aussi d'encourager les personnes à aller se faire dépister une fois dans leur vie. Voilà, quel que soit leur âge.
Quel que soit leur âge. Alors Florence Thune, on sait que le contexte inflationniste est difficile pour les Français. Vous craignez qu'il y ait une baisse des dons cette année ?
Alors on sait qu'on a des donateurs fidèles, mais on sait aussi à quel point l'inflation touche les personnes, notamment les personnes qui vont par exemple nous faire un don de 10 euros ou 5 euros. Ils savent qu'ils ont des choix à faire et les choix effectivement ne sont pas faciles. Donc oui, on est attentif à cette situation. Dans les associations qu'on finance, on sait aussi à quel point les personnes aussi sont beaucoup précarisées. Donc on est très très au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on sait aussi qu'on a des donateurs très fidèles et qui se mobilisent chaque année pour le SIDAction.
Alors c'est le moment de nous dire comment on peut vous aider, Florence Thune, pour ce grand week-end du SIDAction. Alors évidemment, on met la lumière sur le SIDAction ce week-end. On peut donner toute l'année, évidemment, bien
tout
sûr.
Tout à fait. Eh bien, durant ce week-end, vous pouvez ou appeler le 110 pour faire votre promesse de don, ou aller sur le site sidaction.org, ou envoyer don au 9210 en faisant un don de 5 euros.
Eh bien, merci beaucoup Florence Thune d'être venue nous parler de ce week-end du SIDAction sur Europe 1. On le rappelle, le SIDA recule, mais hélas, il est toujours là en 2023. Excellent week-end, bon courage pour ce marathon du SIDAction. Merci Florence Thune. Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe 1 matin week-end.
Lénaïque Monnier. À l'heure du journal permanent, Victor Pourchet.
Les brigades mobiles des forces de l'ordre en manifestation au cœur de la polémique. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, a été ouverte. Cela fait suite à la publication d'un enregistrement où l'on entend des agents menacer et insulter les manifestants interpellés. Sur le volet politique de la réforme des retraites, Emmanuel Macron tend la main aux syndicats. Le président s'est dit ouvert à une rencontre avec l'intersyndicale. Pas de réponse pour le moment de ces organisations. Trois hommes mis en examen pour assassinat et écroué hier, un mois après la découverte d'un corps sans vie dans un barrage en Dordogne. La victime, âgée d'une trentaine d'années, avait été retrouvée fin février par des agents EDF dans le barrage de Tuilières à Saint-Caprès de la Linde. À l'étranger, la Chine n'a pas livré d'armes à la Russie pour le moment. La crainte des Occidentaux tempérée par le président américain Joe Biden hier, deux jours après la fin d'un sommet entre Moscou et Pékin. Par ailleurs, Emmanuel Macron se rendra en visite d'État en Chine début avril. Objectif, travailler avec le président Xi Jinping dans le sens d'un retour de la paix en Ukraine. Et puis, les mésaventures du tennis français au tournoi de Miami. Élimination d'Hugo Humbert et de Caroline Garcia au deuxième tour. Il faudra une immense performance de Richard Gasquet aujourd'hui face à lui, le troisième mondial, le grec Stefanos Tsitsipas.
Merci beaucoup Victor Pourchet. Il est 7h22 sur Europe 1. On vous souhaite un excellent réveil. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera évidemment à 7h30 avec Clément Barguin.
Europe 1 matin, week-end.
Tous les week-ends, comme tous les samedis, la note secrète de Fabrice Laffitte. Bonjour.
Bonjour Lénaïque.
Alors, c'est la journée mondiale de la procrastination. C'est l'art de remettre au lendemain ce que l'on aurait pu faire dès aujourd'hui.
Exactement Lénaïque. Voici d'ailleurs ce que je me suis dit tout à l'heure en sortant de mon lit.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Et puis non, comme vous êtes tous très sympathiques, je suis venu vous parler de cette chanson au faux air de Joséphine Baker, qui s'inspire d'un très court poème de Guillaume Apollinaire intitulé « Hôtel » et écrit en 1913. Il est publié en 1952 dans le recueil posthume de poèmes inédits « Le guetteur mélancolique ». En fait, « Sympathique » commence par les deux premiers vers du poème de Guillaume Apollinaire. Lorsque China Forbes et Thomas Lauderdale, respectivement chanteuse et pianiste du groupe Pink Martini, écrivent ce titre, ils pensent que ce poème est libre de droit et fait partie du domaine public. Mais ce n'est pas du tout le cas. Heureusement pour eux, les ayants droit de Guillaume Apollinaire adorent cet éloge à la paresse lors de sa sortie en 1999 et ne demandent aucune royalty.
Alors Fabrice, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce groupe Pink Martini ?
Pink Martini est un groupe formé en 1994 et composé d'une douzaine de musiciens originaires de Portland dans l'Oregon, aux États-Unis. Ils interprètent des textes en anglais, espagnol, français, portugais, japonais, persan, arabe, hébreu, napolitain, croate, mandarin, roumain, grec, arménien, turc et allemand.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas
Je ne veux pas travailler, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Pink Martini pour fêter cette journée mondiale de la procrastination. Et c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la musique que des artistes américains réalisent un tube en français. Demain, quel est le programme, Fabrice ?
Une chanson emblématique du festival musical de Woodstock, qui en réalité s'est déroulée sur les terres d'une ferme du hameau de Bethel, dans l'État de New York.
Merci Fabrice, à demain.
Merci Lénaïque, à demain.
Et si comme nous dans l'équipe vous aimez la musique, n'oubliez pas votre rendez-vous de 16h musique, évidemment avec Stéphanie Loire. Elle reçoit David Hallyday pour ceci.
Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce samedi matin. Bienvenue si vous êtes au petit déjeuner. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les Bleus lancent idéalement leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 en balayant les Pays-Bas 4-0. Le résumé de cette folle rencontre dès le début de ce journal avec Jacques Vandroux.
Entre 7 et 10 000 manifestants attendus à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres aujourd'hui et tout le week-end. Nouvelle mobilisation pour protester contre un projet de méga-bassine.
Et puis Elisabeth Borne sera présente au premier congrès du parti Horizon, fondé par son prédécesseur Édouard Philippe. La première ministre a tout intérêt à resserrer les liens dans un contexte politique agité pour la majorité.
Programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Par ici, les sorties pour ne rien manquer de l'actualité culturelle. Bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous parle de ses ombrières en panneaux photovoltaïques. Et puis juste avant le journal de 8h, la photo de Paris Match consacrée aux violences en marge des manifestations. Mais avant tout cela, la tendance météo. météo, Valérie Darmon.
Un soleil voilé de Brest à Biarritz, des nuages et des averses en Bourgogne et dans le centre, toujours du vent sur les deux tiers nord, entre 50 et 80 km/h en rafale, notamment près de la Manche.
Et météo complète juste après ce journal. Et c'est donc une nouvelle ère qui débute de la meilleure des manières pour l'équipe de France de foot.
Celle de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus. Premier match, première victoire, 4-0 contre les Pays-Bas. Avec nous pour en parler en studio, Jacques Vendroux. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors deux mots pour qualifier cette rencontre, total triomphe.
Voilà, franchement, on ne peut pas faire mieux. En plus des buts, Mbappé, Griezmann, Upamecano. L'état d'esprit incroyable de cette rencontre. 80 000 spectateurs, un vendredi soir, c'est un exploit. Dans un pays en difficulté, dans une fédération qui sort d'un psychodrame, c'est le rendez-vous parfait qu'il ne fallait pas manquer. Et hier soir, tout le monde était vraiment très heureux. Et à la 94e minute, un autre exploit là, dans les arrêts de jeu, le pénalty arrêté par Mike Maignan, tiré par l'un des meilleurs attaquants du monde, Memphis Depay. Mike Maignan a confirmé qu'il était lui aussi un merveilleux gardien. Alors évidemment, le rôle essentiel de Mbappé a été incroyable hier soir. Un nouveau capitaine, il a été buteur, meneur, leader. Il a rempli ce rôle incroyable comme Platini par le passé, Zidane, Loris et Varane. Et merci messieurs, c'était super. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui sort vraiment de plein de soucis, eh bien ce matin, il doit être vraiment un homme très heureux.
Merci à vous, Jacques Vendroux, pour ce résumé du match France-Pays-Bas.
On s'est couché tard, mais on s'est régalé. Il est 7h32 sur Europe 1. Et Clément, les Deux-Sèvres se préparent à une nouvelle manifestation interdite contre le projet de méga-bassine.
Ces réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole, 5 mois après la dernière manifestation qui avait donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, des milliers de personnes sont attendues à Sainte-Soline pour un rassemblement annoncé comme historique par ses organisateurs. Sur place, plus de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés, Charles Guyard.
La première des choses qu'on redoute, c'est que la manifestation puisse pas avoir lieu.
Le porte-parole national de la Confédération paysanne, Nicolas Giraud, a toutes les raisons de s'inquiéter sur la tenue effective de ce rassemblement anti-bassine programmé de longue date ce week-end dans les Deux-Sèvres. Hier midi, la préfète du département, Emmanuelle Dubé, l'a rappelé, cette manifestation n'est pas autorisée.
Aux personnes qui souhaitent se rendre sur ce rassemblement interdit, ils se mettent dans une situation qui est une infraction pénale et donc que je leur déconseille de venir dans ce rassemblement.
Malgré cet avertissement, plusieurs centaines de manifestants ont déjà convergé vers un campement établi à quelques kilomètres de Sainte-Soline sur un terrain privé. Nicolas Giraud, lui, s'insurge contre cette interdiction et de la violence qui pourrait en découler.
Interdire toute manifestation, forcément qu'on souffle sur les braises. C'est ce que fait la préfète, c'est ce que fait Gérald Darmanin. À un moment donné, les responsables de ce qui va se passer, c'est l'État qui empêche les gens de se rassembler pacifiquement.
Et entre 7000 et 10000 manifestants sont attendus ce week-end et côté forces de l'ordre, 3200 gendarmes et policiers sont déployés sur terre et dans les airs.
Le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
Et justement, la gestion du maintien de l'ordre est au cœur de l'actualité, Clément, avec la mobilisation contre la réforme des retraites.
L'IGPN a été saisie hier après les menaces et intimidations proférées par des policiers de la Brave M contre de jeunes manifestants à Paris. Le préfet de police, Laurent Nunez, dénonce des propos inacceptables que l'on peut entendre dans un enregistrement audio. Le Conseil de l'Europe tire également la sonnette d'alarme. Sa commissaire aux droits de l'homme dénonce un usage excessif de la force envers les manifestants. Elle appelle la France à respecter le droit de manifester.
Et c'est dans ce contexte agité qu'Elisabeth Borne sera aux côtés d'Édouard Philippe cet après-midi pour le premier congrès d'Horizon au Parc Floral de Paris.
La première ministre va s'exprimer devant les troupes du parti de son prédécesseur à Matignon qui, un an et demi après son lancement, revendique 20 000 adhérents, dont 400 élus locaux. Elle devrait appeler le camp présidentiel à faire bloc alors que les relations sont très tendues entre philippistes et macronistes, Arthur Delaborde.
Oui, le torchon brûle entre le parti du président Renaissance et celui de son ancien Premier ministre Horizon, à tel point qu'une demi-douzaine de députés philippistes envisageaient de s'abstenir sur la réforme des retraites avant que l'exécutif ne décide d'utiliser le 49-3. Ils allaient faire défection à un moment crucial, ce qui a profondément agacé le président, confie un poids lourd de la Macronie. Au-delà des retraites, cela fait plusieurs semaines que les tensions sont vives entre les deux composantes de la majorité, entre propositions de loi retoquées de part et d'autre et attaques échangées par médias interposés. Pour autant, Horizon est membre de la majorité. Nous soutenons le gouvernement et la Première ministre a tenu à rappeler Édouard Philippe cette semaine dans le Figaro. Le maire du Havre a également mis en garde contre toute forme d'immobilisme et tendu la main aux Républicains pour un accord de gouvernement.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
À 7h35 sur Europe 1 et ce soir à 8h30 à 20h30, de très nombreux bâtiments, Clément, seront plongés dans le noir.
WWF organise l'Earth Hour ou l'heure de la planète. Depuis 16 ans, chaque 25 mars, pendant une heure, les monuments emblématiques du monde entier éteignent leur lumière pour sensibiliser les citoyens à la réduction de la consommation d'énergie, mais aussi à tous les types d'éco-gestes. En France, de nombreux musées et stades participent à l'opération Louise Salé.
Louvre, Arc de Triomphe, Tour Eiffel à Paris, mais aussi Basilique de Fourvière à Lyon et bien d'autres lieux culturels du pays seront tous plongés dans le noir ce soir à 20h30. Une initiative plus complexe à organiser qu'il n'y paraît. Arnaud Goffier est directeur des programmes du WWF France.
C'est pas simple de convaincre les monuments. L'éteindre la Tour Eiffel, c'est pas bénin comme signal, notamment dans un pays aussi touristique que la France et une ville aussi touristique que Paris. L'idée, c'est pas non plus de renvoyer un message de pénurie, c'est de dire faisons attention à notre consommation énergétique, faisons attention à notre empreinte écologique, essayons de la réduire au maximum.
L'enjeu, donc, inciter les citoyens à réfléchir à leur mode de vie.
L'idée, c'est de prendre cette heure-là pour faire le point sur sa consommation personnelle, ne serait-ce que sur l'alimentation, par exemple. Manger moins de viande, c'est un des meilleurs moyens de réduire son empreinte écologique et son empreinte sur la biodiversité. Changer ses modes de déplacement, privilégier le train à l'avion.
Un live Twitch animé par des influenceurs aura également lieu pendant cette heure pour débattre d'actions individuelles à mettre en place quotidiennement.
Louise Salé du service Société d'Europe.
C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément. 7h37 sur Europe 1. Alors Valérie, on s'attend à une petite amélioration avant hélas la dégradation de demain.
Effectivement, surtout sur le nord-ouest, après les averses orageuses d'hier, c'est beaucoup plus calme. Le vent reste assez fort en bord de Manche, mais il faiblit vraiment cet après-midi. Le temps est plus ou moins mitigé ailleurs, encore assez doux avant les pluies et les vents donc, qui arrivent dans la soirée et surtout la nuit prochaine par l'ouest. D'ailleurs, en bord de mer, c'est la fin des grandes marées. Mais au moment de la pleine mer, ce matin, les vagues sont encore très fortes. Soyez prudents si vous vous promenez sur les bords de mer. Pour le centre et la région parisienne, le temps est variable, avec quelques éclaircies, des averses qui sont beaucoup plus rares qu'hier, là aussi, et qui se concentre surtout sur le nord de la Seine, vers le nord des Yvelines, le Val d'Oise et l'Oise. Au nord de la Seine aussi, en Seine-Maritime, en Champagne-Ardenne, les rafales de vent qui sont assez fortes, jusqu'à 80 km/h. Le temps qui est assez nuageux aussi sur le nord Aquitaine, le Limousin, mais plus on se dirige vers le sud et plus vous profitez d'un temps sec, variable, bien ensoleillé et sans vent.
Merci beaucoup Valérie Darmon. On vous retrouve évidemment à 8h dans un instant sur Europe 1. À 7h40, les sorties, les idées de Stéphanie Loire, de Laurie Choleva et de Sébastien Bordenave. Par ici les sorties, c'est dans 2 minutes, à tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous, informez-vous avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et avec Par ici les sorties, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour Lénaïque.
Bonjour. Laurie, on va commencer avec le tueur à gages fan de petits chiens le plus redouté qui est de retour au cinéma.
Je vois que vous connaissez bien. Oui, celui que l'on surnomme le croque-mitaine, c'est John Wick qui revient pour un 4e opus assez incroyable, faut le dire, avec toujours évidemment l'excellent Keanu Reeves qui l'interprète. Alors pour rappel, John Wick, c'est un ancien tueur à gages effectivement qui a repris du service après qu'on ait tué son petit chien. Au début, ce n'était qu'une affaire de vengeance, mais au fil des films, c'est devenu bien plus et dans cette suite, c'est un marquis français qui veut sa peau.
Tu es prêt, John ?
Oui. Et qui est-ce ?
Le marquis de Grammont.
Je vais avoir besoin d'une arme.
Goodbye, my friend. It's hard to...
Alors un chapitre 4 qui tient largement ses promesses. Oui, on coupe un peu 4 comme ça, ça vous laisse en haleine, c'est pas mal. Il y a des courses-poursuites à travers le monde entier, notamment chez nous en France, avec une sur la place de l'Étoile assez impressionnante. On pense évidemment quand même pour cette sortie à Lance Reddick qui nous a quitté la semaine dernière et qui interprétait le fidèle concierge de l'hôtel Continental. Le film lui est dédié.
Alors on va consacrer un peu de temps à un autre thriller, mais politique cette fois-ci, et français.
Oui, et c'est de plus en plus la mode en France, ouais, le thriller politique. De grandes espérances. C'est le titre de ce film passionnant de Sylvain Descloux. On suit le personnage de Madeleine, joué par Rebecca Marder, qui est en vacances en Corse, dans la villa de son petit ami, joué par Benjamin Lavergne. C'est l'été, ils vont passer le concours de l'ENA. Ils sont jeunes, ils sont amoureux, ils ont plein d'idéaux. Mais malheureusement, un tragique incident va mettre en péril leur avenir.
T'es sûr qu'il va pas parler, ton copain ?
Est-ce qu'Antoine est là ?
Tu le laisses tranquille maintenant.
Tu vas être nommé au cabinet du ministre.
T'étais au courant ? Tu me l'as fait pas à l'envers.
Merde ! Je vais pas y arriver. Au revoir, entendre parler de toi. Faut que tu disparaisses.
Putain de lâche, Antoine. Si tu t'étais défendu, on n'en serait pas là.
Avec un bon avocat, je prends du sursis.
Il y a un
un truc que je sens pas chez toi. Il y a quelque chose que tu dis pas.
Ça parle de la lutte des classes, du pouvoir, de l'ambition, du monde politique. On a entendu également la voix d'Emmanuel Berco,
ah ouais,
qui est géniale dans le film.
Et Lénaïque, elle est emballée.
Ah oui, non, j'ai le voir, j'ai adoré. Laurie, vous nous en parliez également mercredi dans la matinale chez Dimitri Pavlenko. La sortie du film sur les chemins noirs, qui est une adaptation du film de Sylvain Tesson, c'est le Dujardin en fait. Hein.
Oui, l'adaptation du roman de Sylvain Tesson avec Jean Dujardin. C'est un très joli voyage réparateur sur les routes de France. Ça a extrêmement bien démarré mercredi, donc on est bien contents.
Et alors, on va continuer à aller le voir peut-être pendant le week-end. Alors Sébastien, avec vous ce matin, un manga avec un titre un peu rigolo. Ma revenante bien-aimée. Alors ça, c'est pour les plus anciens d'entre nous. C'est un peu comme ma sorcière bien-aimée, en fait.
Exactement, c'est le même principe dans la série.
Ah, c'est le petit
nez. Souvenez-vous, un monsieur... Une petite démonstration de nez, Laurie. Donc, il y a un monsieur qui était marié à une sorcière qui était très jolie, la sorcière, dans cette série. Et bien là, c'est un manga où un monsieur est marié à une femme très jolie, aussi une femme à la beauté froide. Bon, tellement froide que c'est un zombie. Rémi, oui, parce que je savais pas, au Japon, eh ben il y a des
zombies.
Rémi, c'est un prénom féminin au Japon.
D'accord.
Voilà. Donc on a une zombie femme qui s'appelle Rémi. Rémi est jolie, sauf quand elle éternue, ou quand elle a peur, ou quand elle est heureuse, ou quand elle est contrariée, ou quand elle est surprise. Bref, un peu tout le temps. À ce moment-là précis, bah, bim, elle reprend l'apparence d'un zombie. Du coup, ses yeux s'injectent de sang, sa peau se disloque, sa mâchoire tombe, sa nuque se brise à 90 degrés. Bref, c'est compliqué à vivre pour elle. Son amoureux s'appelle Riku. Il veut se marier avec, d'ailleurs. La maman de Riku n'est pas super pour, d'autant plus que...
Est-ce qu'elle sait que c'est une zombie ?
Elle sait que c'est une zombie, et en plus, la zombie, elle peut communiquer avec le défunt mari de la maman. Donc, c'est un peu. C'est n'importe quoi. En fait, clairement, ce manga, il est complètement déjanté, mais il est drôle et surtout, il est logique. C'est-à-dire que le scénario se tient et va jusqu'au bout de l'idée. C'est quoi les inconvénients et les avantages d'avoir une femme zombie ? Eh bien, inconvénient, quand elle fait les soldes, qu'elle se transforme en zombie dans la cabine d'essayage, c'est compliqué. Par contre, quand il y a une fête pour les enfants et qu'il faut tenir le stand de la maison hantée, là, elle cartonne.
Oui,
pas besoin de maquillage, c'est parfait. Takeshi Wakasa, l'auteur, va avoir 50 ans l'année prochaine. Il parle pour ce manga d'une comédie romantico-horrifique. En tout cas, ça vide la tête, c'est clair. Il y a déjà 9 tomes de sortie au Japon de Ma Revenante bien-aimée, ça cartonne. Je me demande comment ils arrivent à faire 9 tomes sur ce pitch, mais bon, voilà. En France, c'est le tome 1, il est sorti à la dernière Saint-Valentin. C'est bête, ça aurait pu faire un joli cadeau. Le tome 2 arrive dans 15 jours, ça s'appelle Ma Revenante bien-aimée chez Manjetsu.
Est-ce que c'est dans votre nouveau podcast,
CBD ? Voilà, je suis très content parce que mardi dernier, tous les mardis et tous les jeudis, en 3 minutes, je vous recommande une BD. C'est un podcast qui s'appelle, avec Europe 1 Studio, qui s'appelle CBD. Il y a une apostrophe.
CBD. Et on adore le titre.
La finesse du jeu de mots.
On adore le titre. Tout comme on adore les deux artistes que va nous présenter Stéphanie Loire à présent, David Hallédé et le petit breton Hervé.
Hervé.
Enfin, petit breton, non,
Petit,
pas petit du tout.
Pas si petit que ça, bon, d'ailleurs. Surtout. Hervé, c'est ce jeune chanteur récompensé par la victoire de la musique de la révélation masculine. C'était pour son album Hyper, c'était le premier et c'était il y a 2 ans. Rappelez-vous, une véritable pépite d'album très lumineux porté par ce tube qui s'appelle Si bien du mal, qui a rendu les pauses café intensément vivantes.
On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien.
Je parlais des pauses café parce qu'elle avait été utilisée dans la pub télé Carte Noire, cette chanson.
Ah oui.
Si bien du mal, un titre qu'il va d'ailleurs interpréter en live dans
vous, hein.
Musique sur Europe 1, j'en suis ravie. Il vient tout juste de révéler un deuxième album qui s'appelle Intérieur Vie. Il est parti fabriquer en Bretagne, sur ses terres natales. Il s'est isolé dans une maison pour écrire cet album et nous offrir une série de chansons très très intimes, dont ce titre qui sonne comme un autoportrait teinté de bagade. Les naïques, vous savez ce que c'est de
bagade? Oui, le biniou, les cornemuses.
Voilà,
total.
On est sur vos terres aussi,
ah oui,
direction la Bretagne. Dans cet album, c'est l'auteur qui se révèle derrière le musicien qu'on connaissait déjà. Et parmi les titres qui m'ont énormément touché, c'est une chanson qui s'appelle La Lettre, dans laquelle il s'adresse à l'enfant qu'il n'a pas encore, mais qu'il aura un jour.
Je te vois partout dans les rues. Tu seras en retard, on n'avance pas comme prévu. Et je ferai comme si personne m'avait prévenu.
Alors, on va le voir sur scène le 20 avril au Printemps de Bourges. On le verra à La Cigale à Paris et puis on l'entend chez vous.
Et on l'entend chez moi dans Musique dimanche. Et tout à l'heure, mon invité, ce sera David Hallyday qui vient nous présenter son nouveau single qui s'appelle Le plus heureux des hommes.
Le plus heureux des hommes.
Une chanson qu'il a écrite à l'origine pour son illustre papa.
Et qu'on entendra évidemment chez vous, Stéphanie. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci, bon les week-end.
Merci.
Bon week-end.
Europe 1 matin week-end.
Lénaïque Monnier.
7h47 sur Europe 1, l'heure de retrouver Clément Barguin pour le journal permanent.
Emmanuel Macron tend la main aux syndicats. Le chef de l'État se dit prêt à avancer sur certains sujets comme l'usure professionnelle, les conditions de travail ou encore les rémunérations dans certaines branches. Pas question en revanche de revenir sur la réforme des retraites. L'intersyndicale indique qu'elle ne répondra pas au président. La mobilisation contre la réforme des retraites et la gestion du maintien de l'ordre pointée du doigt par le Conseil de l'Europe. Sa commissaire aux droits de l'homme dénonce un usage excessif de la force envers les manifestants alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi. C'est dans ce contexte agité que la visite du roi Charles III a été reportée. Et puis les Bleus lancent idéalement leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 en balayant les Pays-Bas 4-0, notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui a fait son premier match en tant que capitaine.
Merci beaucoup Clément, il est 7h49 sur Europe 1. Dans un instant, bienvenue chez vous, on va retrouver Christophe Bordet, puis juste après, on se plongera dans la lecture de Paris Match. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1.
Retrouvez toute l'actualité immobilière. Le réseau Guy Hockey vous présente Bienvenue chez vous. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Samedi sous le soleil et sous son toit bien habité, on va en parler avant de feuilleter les bonnes pages de Paris Match de la semaine. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour chers amis des belles pierres.
Alors vous allez pédaler dans la cave aujourd'hui, vous allez nous faire de l'électricité. Allez hop,
zoom. Non mais écoutez, franchement, vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour Bernard Hinault peut-être? Non, on va parler électricité effectivement, mais ça peut venir du ciel. Le groupe Téléphone Électricité Densité Cité. Ah, ce n'est pas la chanson la plus connue. Hein. Quand je l'ai entendue, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne la connaissais pas bien, celle-là. Mais oui, les amis, on va parler économie d'énergie ce matin parce qu'une loi vient d'être promulguée. Loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. C'est un peu pompeux. Alors, elle prévoit quoi? Notamment la construction d'ombrières avec panneaux solaires photovoltaïques sur les parkings extérieurs des copropriétés. Objectif, fournir aux copropriétaires, justement, de l'électricité de proximité, décarbonée, moins chère. Tout ça alors que les factures explosent.
Alors, ça veut dire, Christophe, que toutes les copros avec parking en plein air sont concernées? Toutes?
Alors, ce sont les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Il s'agit d'alimenter les communs, les caves, les couloirs, les appartements des particuliers. Comment cela peut se traduire? Explication, Arnaud Versaveau, directeur marketing d'Enerlis, l'un des opérateurs de la transition énergétique.
Vous avez une résidence, par exemple dans le Var, vous imaginez les cigales, vous avez un parking, vous allez couvrir une partie de ce parking à hauteur de 50% et vous allez couvrir une partie de vos besoins des communs à hauteur de 20%, ce qui va vous permettre de retrancher votre facture globale de votre résidence collective avec ces panneaux photovoltaïques. 20% de kilowattheures en moins sur votre facture d'énergie, 20% en moins à payer à votre fournisseur. Vous allez être moins dépendant de l'augmentation des prix de l'énergie.
Bon, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier? Réponse.
Il faut savoir que là, vous allez pouvoir espérer entre 100 à 250 euros par logement, sur du 3, 4 pièces par exemple, par an.
150 euros par an, Christophe, c'est pas trop mal hein, d'économie. C'est pas le Pérou, mais c'est pas mal quand même.
C'est peut-être pas le Pérou, mais c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai demandé à Arnaud Versaveau d'Enerlis si finalement le photovoltaïque pour les particuliers, ce n'était pas un peu du pipeau.
C'est absolument pas du pipeau. Lorsque vous avez une forte production, notamment sur un pic à midi, notamment dans le sud, eh bien, vous pouvez réinjecter cette électricité et en faire un revenu. C'est-à-dire que Enedis va vous racheter votre kilowattheure en surplus à 12 centimes du kilowattheure. Est-ce que vous allez, entre guillemets, considérer que c'est pas intéressant? Bien sûr que c'est intéressant, surtout si vous avez des fins de mois qui sont difficiles.
Et oui, la revente, quand il y a du surplus d'énergie l'été, il faut aussi y penser, c'est pas si bête que ça. Cela étant, l'installation des ombrières et des panneaux a aussi un coût, même si les prix des panneaux solaires ne cessent de baisser, moins 10% en moyenne sur un an.
Environ 20 000 euros d'investissement pour cette copropriété. 20 000 euros sur cette copropriété pour 24 logements, vous faites la division, finalement c'est quelque chose qui pourrait être soutenable. On s'en sort pas mal, surtout que dans le Var, ils ont pas mal de potentiel solaire et que le retour sur investissement est de l'ordre de 6 ans. C'est-à-dire que dès la première année, vous gagnez entre 100 et 250 euros en moins sur votre facture d'énergie pour les communs. Et au bout de 6 ans, vous avez déjà rentabilisé votre installation.
Alors, je résume. Obligation d'installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings plein air des copropriétés pour l'autoconsommation des habitants. Mais très peu d'aide de la part de l'État. Ça, c'est vraiment le problème. Pas de certificat d'économie d'énergie, pas de défiscalisation en vue. Allô Bruno Le Maire, ministre de l'économie, si tu m'entends. La bonne nouvelle, c'est la durée de vie des centrales photovoltaïques qui sont donc installées pour que tout ça fonctionne. C'est entre 15 et 25 ans, on peut rentabiliser.
Il faut habiter la bonne région bien ensoleillée. Ah, merci oui. Christophe, on va lire Paris Match.
C'était Bienvenue chez vous avec le réseau Guy Hoquet. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hoquet. Rendez-vous en agence et sur guy-hoquet.com.
La photo de Paris Match, comme tous les samedis sur Europe 1 avec Patrick Mahé. Bonjour.
Bonjour Lénaïque.
Directeur général de la rédaction de Paris Match. Je dis la photo de Paris Match, je devrais dire les photos, puisque cette semaine, évidemment, vous revenez sur cette France qui s'embrase, et notamment avec des photos très spectaculaires prises à Paris.
Oui, et puis alors surtout, vous avez vu que le journal paraissant le jeudi, qui était le jour de la grande manifestation qui a dégénéré un peu partout, vous avez vu avec les ultras qui sont au-delà des syndicats, on était évidemment pile poil forcément dans le sujet. Mmh. Et la France s'embrase, la France s'est embrasée, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est incontestable. Mais les photos sont très parlantes, et on n'est pas resté qu'à Paris, bien sûr. On est en Bretagne, on est à Nantes, par exemple, où on voit des Black Blocs à Nantes qui s'agitent et qui jettent des mortiers, qui lancent des mortiers. Bien sûr, au Palais Bourbon à Paris. Et puis on s'aperçoit aussi que, déjà, on a anticipé sur toutes ces histoires de mise à feu des poubelles. Donc on voit bien que des poubelles qui débordent partout de détritus sont évidemment une matière incendiaire facile et à portée de main.
Tout comme les chantiers.
Tout comme les chantiers. Les chantiers dont certains ont été pillés. Et évidemment, il faut mettre en perspective toujours les choses. C'est pourquoi nous avons fait appel d'abord à l'enquête de Laurence Ferrari sur les coulisses du 49-3. Et puis nous avons demandé à un écrivain bien connu qu'on aime vraiment parce qu'il a le sens du visuel, du vécu, du vu et du vécu, c'est Yann Moix, de descendre dans la rue et de nous raconter ce qui s'y passe. On voit bien aussi que par rapport à la formule de Darmanin sur les Black Beaufs, il a une formule lui qui dit qu'un gendarme mobile lui aurait dit à l'oreille, vous savez, les Black Blocs appellent leur maman dès qu'on les attrape par le col. Je suis pas sûr que ce soit vrai, en tout cas pas les vrais qui actuellement convergent sur Sainte-Soline par exemple, dans les Deux-Sèvres sur l'affaire des bassines.
Et le printemps de la colère, donc c'est à lire dans Paris Match cette semaine. Merci beaucoup Patrick Mahé.
Merci Lénaïck.
Et vous restez avec nous sur Europe 1 parce que justement le dossier du journal de 8h est consacré à la contestation à cette jeunesse notamment de plus en plus présente. A tout de suite sur Europe 1, on arrive dans 3 minutes.
Europe 1.